d'être de nouveau ici ce soir, au tabernacle, pour participer à cette merveilleuse communion et à cette merveilleuse adoration autour de la parole de Dieu, ce qui nous est accordé gratuitement. Et nous aimons avoir part à cette bénédiction. Et j'espère bien que Dieu nous bénira ce soir, comme il l'a fait ce matin, par le message du matin. Je parlais à ma voisine, Mme Wood, tout à l'heure. Nous en discutions, et avec M. Wood et les autres. Je crois que c'était le meilleur sermon de Fresneville, parmi tous les bons sermons qu'il a prêchés. C'était pour moi le meilleur de tous ceux qu'il ait jamais prêchés. J'ai vraiment admiré et apprécié ce merveilleux sermon. Il m'a donné du courage et il m'a taillé. Alors, quand c'est la vérité, j'aime l'admettre, vous savez. Ainsi, les parties qui traitent du courage, vous savez, d'être courageux. Et comment David qui était là, et comment il, quand il s'est trouvé dans cette grande épreuve, plutôt que de dire, « Eh bien, je vais aller faire ceci, Seigneur, aide-moi », il a attendu. Il est allé demander au Seigneur ce qu'il fallait faire. Il a apporté l'effort, vous savez, et il a dit, « Maintenant, levons-nous et demandons à Dieu. Que devons-nous faire dans cette crise ?» Oh, c'était vraiment riche. Ça contenait plus de vitamines que toutes les pharmacies qu'on a dans le pays. Oui, monsieur, ça fait vraiment du bien. Maintenant, ce soir, nous n'avons pas l'intention de rester plus tard que minuit, si possible, sur ces questions. Donc, nous allons les aborder tout de suite. C'est la fin de ces questions. Et chaque fois que je m'apprête à les terminer, bon, Sœur Hattie, je n'étais pas sérieux, tu sais bien. Je disais ça juste comme ça, tu vois. Et, très bien. Mais j'en ai quelques-unes ici qui sont vraiment épineuses. Elles viennent d'un ministre, et il est vraiment difficile d'y répondre. Vous savez, ces prédicateurs, ils vont chercher partout dans la Bible pour essayer de trouver leur propre réponse, avant de vous la demander à vous, vous voyez. Et alors, ceci est enregistré sur bande et va aller en Géorgie, chez un de mes amis ministres, qui a ici 8 questions remarquables sur la Bible. Des questions très, très difficiles. Alors, cette semaine, n'oubliez pas, priez pour nous. Ma femme va beaucoup mieux. Elle est debout maintenant. Et aujourd'hui, elle a aidé à faire la cuisine. Nos chers amis du Canada, frères et sœurs Southman, sont de passage chez nous. Et nous apprécions beaucoup leur visite. Et ma femme, sachant qu'ils allaient venir, eh bien, elle voulait se lever pour avoir un peu de détente et de communion fraternelle avec ses chers amis chrétiens. Nous sommes contents d'avoir frère Freddy avec nous ce soir. Et elle est restée avec... Elle était ici ce matin, mais je crois qu'elle est restée avec... Non, c'est ça. Elle est avec Meda pour lui tenir compagnie pendant que nous sommes venus ici. Je sais que ça va finir un peu tard ce soir, puisqu'il y a la communion et le lavement des pieds. Donc, nous sommes heureux de les avoir parmi nous, de même que les visiteurs. Maintenant, avant d'essayer de répondre aux questions, et rappelez-vous que je peux me tromper, vous voyez. Je ne prétends pas avoir raison dans tout ce que je fais. J'essaye d'avoir raison, mais il se peut que je me trompe. Et si je me trompe, alors pardonnez-moi. Et je prie que Dieu le fasse aussi, parce que je ne fais pas exprès de me tromper. Je n'essaye pas d'y répondre juste pour, ou de la manière dont par parti pris, mais j'y réponds vraiment de mon mieux, vous voyez. Et si je dois changer mes idées à propos d'une question qui a trait à la Bible, je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. On devrait changer chaque fois quand c'est la parole de Dieu qui parle, parce que c'est la parole de Dieu. Et maintenant, je pense que nous allons de nouveau prier pour les malades ce soir, comme d'habitude. Parfois, on se pose des questions. On prend un petit groupe comme celui-ci, plus petit que, comme le petit tabernacle ici. Et parfois, on ne voit pas les résultats qu'on aimerait voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a là qu'environ 200 personnes présentes. Dans une des grandes réunions, peut-être que le nombre de personnes présentes peut aller de 3 à 10 000, vous voyez, et peut-être davantage. Alors, comme ça, on peut voir les effets sur une plus grande échelle. Mais ce soir, je n'ai fait que répondre, c'est que notre téléphone sonne à tout instant, pendant la journée et une partie de la nuit. Est-ce Mme Reiser, qui est assise ici, que je suis en train de regarder? Votre Bible, sœur, c'est Sir Wood qui l'a. Là au fond, je l'avais apporté pour vous la remettre ce matin, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous la donner. Je ne vous ai pas vu ce matin, alors c'est Mme Wood qui l'a. Donc, en répondant au téléphone, j'ai appris les grandes choses qui ont été accomplies. Une dame m'a appelé, elle a dit, « Frère Branham, j'étais à telle réunion et je souffrais de telles choses depuis tant de temps. Et vous savez, vous avez dit quelque chose et elle a dit, « J'ai failli m'évanouir quand il a ressorti ma vie passée. » Et elle a dit, « Et je n'en ai plus jamais souffert depuis. » Une dame est venue, elle a dit, je crois qu'elle est ici ce soir, ou qu'elle allait venir de Bedford en voiture, je crois, ou de quelque part dans ce coin-là. Leur fils a été ici, je crois. Il souffrait du cœur. Il était très mal en point. Il était assis ici à la réunion, et le Seigneur est intervenu et a touché. A dit au garçon de quoi il souffrait, il pouvait à peine lever le bras. Il avait eu une crise cardiaque, son bras était tout raide et son cœur était dans cet état. Sitôt après, il a pris sa voiture et est rentré chez lui. Il n'a plus jamais été dérangé par cela depuis. Est-ce que cette dame de Bedford est arrivée? Êtes-vous ici, ma... La voilà, au fond. Oui, elle vient de m'appeler, il y a quelques instants. Et puis, il y a une dame qui m'a appelé d'Evansville. Elle ne pouvait pas venir parce qu'elle habite trop loin. Elle ne savait pas que nous allions avoir un service de guérison ce soir. Elle a dit, « Frère Branham, j'étais assise à la réunion d'Evansville. » Elle a dit, « Vous avez promené les regards sur l'assemblée et vous avez dit, vous m'avez dit qui j'étais, ce que j'avais fait, de quoi je souffrais et tout, comme ça. » Et elle a dit, « J'étais asthmatique et il fallait qu'on fasse brûler de l'asthme d'or et tout dans la chambre, depuis que j'étais petite. » Elle a dit, « Cela fait 2 ans et je n'en ai plus eu la moindre trace depuis. » Voyez? Et juste pour ceux qui sont ici ce soir, qui n'étaient pas ici ce matin pour avoir le plaisir d'entendre le témoignage. Hier, je suis allé au magasin d'articles à petit prix pour acheter une poupée. Bon, ce n'était pas pour moi, vous voyez. C'était pour ma petite fille, Rebecca, là. Et c'est Sarah qui allait à quelque chose aujourd'hui. Quelques-unes de ses petites camarades de classe organisaient une petite fête pour un anniversaire ou quelque chose. Et elle lui apportait un petit cadeau. Et j'étais en train d'acheter une petite poupée, à peu près de ses grandeurs. Et une dame s'est approchée, elle a dit, « Vous vous souvenez de moi ?» J'ai dit, « Je ne crois pas. » Il se trouve que c'était une parente de Fred Neville ici, qui, il y a environ, comme j'allais partir en Suède, elle est venue ici, elle avait un petit garçon dans un fauteuil roulant, comme la petite Edith là. Et cet enfant avait le cancer, une tumeur maligne au cerveau. Sa petite tête retombait et les médecins ne lui avaient donné que 3 semaines à vivre. Ils l'avaient excisé et avaient établi un diagnostic. Ils avaient vu que c'était ce que c'était et ils ne lui avaient donné que 3 semaines à vivre. Il fallait le déplacer en fauteuil roulant, puis le mettre sur une civière quand il allait dans la salle pour l'examen, puis le redescendre. Je suis allé prier pour ce petit garçon. J'ai demandé au Seigneur de le guérir. Et dès le lendemain, quand on l'emmenait là-bas, il a dit, « Je ne veux pas ce fauteuil roulant. » Il est monté dans la voiture et il est allé là-bas. Le médecin est venu avec la civière à roulettes. Il a dit, « Je ne veux pas cette civière. » Il est monté au courant, il s'est assis, le médecin l'a examiné, il a dit, « Eh bien, il a dit, au lieu de te donner 3 semaines à vivre, je vais te donner 108 ans. » Et hier, la mère est venue me trouver. Il se peut qu'elle soit ici ce soir, c'est bien possible. Le jeune garçon était en train de jouer au football, c'est maintenant un jeune homme. C'était malin, un cancer au cerveau. Cela montre bien que, oh, des milliers de cas, vous voyez, Dieu ne peut pas faillir. Il ne peut simplement pas faillir. Frère Jean, est-ce que ton œil va mieux, frère? Il a eu un accident, il plantait un clou et cela l'a atteint à l'œil. Et nous avons tous prié pour frère Jean O'Bannon, notre frère de Louisville qui avait eu cet accident, le clou qu'il avait atteint à l'œil. Bon, ces questions reflètent la profondeur du cœur de quelqu'un. C'est que ces gens, en lisant l'Écriture, ils trouvent ces choses et peut-être que ça ne les satisfait pas. Alors, ils nous les apportent ici pour qu'on essaie d'y répondre. Et vous voyez dans quelle situation difficile ça nous met, parce que ce qu'on va dire, ils vont s'y accrocher. Alors on doit être sûr qu'on a raison, et je aussi sûr qu'on peut l'être. Et donc, la chose à faire pour être sûr qu'on a raison, c'est de demander au Saint-Esprit de nous donner l'interprétation de ces choses, alors que nous inclinons la tête. Maintenant, Père Céleste, oh, quel privilège de pouvoir dire « Père » au grand Créateur des cieux et de la terre. Et nous te demandons simplement de t'occuper personnellement de ces questions maintenant. Elles nous ont été présentées en toute sincérité. Ô Dieu, fais que ça vienne de notre cœur, en toute sincérité, que nous y répondions de notre mieux. Accorde-le. Que ta miséricorde repose sur chacun et que quelque chose soit dit ici ce soir qui aidera toutes les personnes présentes. Et quand nous repartirons, après avoir prié pour les malades et pris la communion et tout, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bon, comme je l'ai dit bien des fois, ces réponses ici expriment parfaitement mon point de vue, mais il arrive qu'elles suscitent une petite discussion. La première question ici, je vois que c'est quelque chose que j'ai dit précédemment et qu'on me présente de nouveau. Je veux la lire maintenant, si vous permettez. Quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Dans Genèse, chapitre 5 et verset 16, Cain habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Bon, ça, c'est une merveilleuse question. Bon, la Bible nous enseigne, et bien des fois, c'est parfois à la légère que nous avons. Dans le temps, je mettais un petit bout de papier sur lequel je disais « Demandez réponse à toute question sur la Bible ». Et quelqu'un disait, eh bien, qui était la femme de Cain? Oh, je tournais ça un peu en plaisanterie. Quelque chose du genre, je disais, oh, c'était la fille de sa belle-mère. Ou quelque chose comme ça, vous savez, ou c'était Madame Cain. Mais ça ne répond pas à la question. Cain avait là une femme, parce que c'est ce que la Bible dit. Et si Cain avait une femme, il a fallu qu'il la trouve quelque part. Et ceci serait dans le même ordre d'idée. Y avait-il d'autres gens sur la terre quand Adam et Ève ont eu leurs enfants dans le jardin d'Éden? Bon, si vous remarquez, dans la Bible, on ne rapporte que très rarement la naissance d'une femme. C'est toujours l'enfant mâle qu'on rapporte dans la Bible, pas la femme. La naissance d'une petite fille est rarement mentionnée dans la Bible. Ou, franchement, je ne sais pas, mais il n'y a pas un seul passage qui me vienne immédiatement à l'esprit où la naissance d'une petite aurait été rapportée. Il est dit qu'ils engendrèrent des fils et des filles. Or, la Bible ne consigne la naissance que de trois enfants nés d'Adam et Ève. C'était Cain, Abel et Seth. Si donc, tous les trois étant des hommes, s'il n'y avait eu naissance d'aucune femme, alors quand la seule femme, Ève, est morte, la race humaine se serait éteinte du même coup. En effet, il n'y aurait pas eu moyen pour eux que la race humaine se perpétue, parce qu'il n'y aurait plus eu de femmes. Ève aurait été la seule. Mais vous voyez, dans la Bible, on ne rapporte pas la naissance des petites filles. Et donc, forcément, qu'ils ont eu aussi bien des filles que des garçons. Or, l'écrivain ancien, l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Joseph, prétend qu'ils ont eu 70 enfants. Et Adam et Ève, l'un des écrivains les plus anciens, 70 enfants, et il y avait des fils et des filles. Et alors si Cain est allé dans la terre de Nod, maintenant si vous remarquez, celui qui a écrit ceci a fait preuve de beaucoup, beaucoup de perspicacité dans ce qu'il a écrit ici. Avez-vous remarqué comment il a cité ça? En Éden, quand ils ont eu leurs enfants en Éden. Or, pas dans le jardin d'Éden. Celui qui a écrit savait ça. La personne qui a écrit la note ici a dit quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden. Pas dans le jardin d'Éden, puisqu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden. Par contre, ils étaient toujours en Éden. Et le jardin d'Éden se trouvait en Éden, à l'est. Mais Éden, c'était comme une région, ou un état. Et alors Nod était un autre état, ou une région voisine. Donc, la seule personne que Cain ait pu prendre, ou ait pu épouser, c'était sa propre sœur, obligatoirement, forcément. En effet, il n'y avait qu'un homme et qu'une femme dont il pouvait être issu, vous voyez. Et il a fallu qu'il épouse sa propre sœur. Or ça, c'était légal en ce temps-là. Isaac a épousé sa propre cousine germaine, de même sang, Rebecca. C'était dans le plan de Dieu. Sarah était la sœur d'Abraham, sa sœur de sang, pas par sa mère, par son père. Vous voyez, une sœur de sang qu'Abraham a épousée, de mère différente, mais du même père. Alors, vous voyez, à cette époque-là, épouser quelqu'un de la parenté, avant que le sang de la race humaine perde sa force, c'était légal et dans l'ordre des choses. Maintenant, ça ne l'est plus. Si aujourd'hui vous épousiez votre sœur et que vous ayez des enfants, ils seraient probablement, eh bien, ils auraient tout simplement des malformations et tout. On ne devrait même jamais épouser un cousin germain ou un petit cousin, vous voyez, parce que le sang perd de sa force, il perd de ses qualités. Mais alors, la seule chose que Cain ait pu faire, c'était d'épouser sa propre sœur. Et c'est là qu'il y a eu les enfants, qu'il a pris sa femme, il est allé dans la terre de Nod, il a connu sa femme, et de là sont venus les enfants. Vous voyez, et si vous remarquez, c'est de la lignée de Cain que sont sortis les hommes intelligents, c'est de la lignée de Seth que sont sortis les hommes religieux, je veux dire le cep de la justice. Voilà, ces deux hommes ont produit là chacun une lignée, au milieu de laquelle nous vivons aujourd'hui. Si vous remarquez aujourd'hui, là, juste pour terminer cette question, cette lignée de Cain existe toujours, et la lignée de Seth existe toujours. Les deux se sont perpétués, toujours pareil. Les enfants de Cain sont ici, à Jeffersonville, ce soir. Et les enfants de Seth sont ici, à Jeffersonville, ce soir. Alors que le sang s'appauvrit et s'épuise, la lignée, elle, s'accroche toujours. Maintenant, regardez bien. Les enfants de Cain ont toujours été, et avant la destruction antédiluvienne, ils étaient les gens intelligents, les hommes de science, les enseignants, et très religieux. Mais ce groupe était condamné. Voyez, maintenant, regardez bien. Ils étaient exactement comme leur père Cain. Cain était un homme religieux. Il a bâti un magnifique autel. Il a fait une magnifique église. Il a essayé de les faire plus beaux que la petite mission que Seth avait là-bas. Saviez-vous cela? Il a décoré l'autel avec des fleurs. Il a arrangé magnifiquement. Il a embelli. Il a fait une immense église, absolument magnifique, parce qu'il pensait qu'il pourrait s'attirer les bonnes grâces de Dieu en agissant ainsi. Abel, lui, est allé chercher un petit agneau, l'a tiré vers l'autel, l'a posé sur un rocher et l'a tué. Et alors, si Dieu, qui est juste, si tout ce qu'il exigeait, c'était l'adoration, Cain adorait Dieu avec autant de sincérité qu'Abel. Ils étaient tous les deux sincères. Ils essayaient tous les deux de trouver grâce auprès de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'était un incrédule. Ils étaient tous les deux véritablement des croyants en Jéhovah. Voilà qui nous donne matière à réflexion. Il y a ici ce soir des gens que je n'ai jamais vus. Je ne vous ai jamais vus auparavant. Mais vous devez prendre conscience de ceci et garder ceci à l'esprit. Voyez, peu importe votre degré de religiosité, ça n'a absolument rien à voir. Vous pourriez passer votre vie à l'église. Vous pourriez être tout ce qu'il y a de plus sincère, être quand même perdu. Voyez? Et vous dites, eh bien, vous dites, nos pasteurs sont les plus intelligents. Ils passent par les séminaires pour recevoir la meilleure formation. Ce sont des théologiens. Ils connaissent toute la théologie et tout le Bataclan. Ils sont intelligents, formés, l'élite, ce qu'il y a de mieux à notre connaissance. Et ils pourraient être quand même perdus, voyez? Or Cain, ceux de sa lignée, ils étaient tous très religieux, des gens vraiment célèbres. C'étaient des hommes de science, des médecins, des bâtisseurs, des travailleurs, des hommes intelligents. Mais toute cette lignée a été rejetée, de Cain jusqu'à la fin. Et du côté d'Abel, ce n'étaient pas des bâtisseurs, ni des enseignants, ni des hommes intelligents. C'était plutôt de modestes éleveurs de moutons, des paysans qui marchaient simplement par l'esprit. Or, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut jamais mourir. Et l'homme charnel a autour de lui une atmosphère religieuse. Il veut adorer et tout le reste, mais il est charnel. Pas en incroyant, mais en croyant charnel. C'est la sorte qui a été rejetée. Donc, Cain est parti de là et il a épousé sa femme dans la terre de Nod. Or, il n'est pas dit qui Seth a épousé ou qui les autres ont épousé. Et ce qui est magnifique, c'est de savoir que concernant le mariage de Cain, Nous avons la réponse. En effet, il fallait qu'il épouse sa sœur. Il n'y avait pas d'autre femme sur la terre. Il fallait donc que ça vienne d'Ève. Elle était la mère de tous les vivants. C'est-à-dire que tous les gens qui vivaient, elle était leur mère. C'est pour cette raison qu'elle était. Le mot Ève veut dire la mère des vivants. Donc, elle est venue et a donné naissance à cet enfant. Et Caïn a épousé sa propre sœur. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, il y avait des gens qui vivaient en ce temps-là, certainement. Voyez? Eh bien, quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, maintenant regardez bien, voici la question. Quand ils ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Non. Ensuite, dans Genèse 5, 16, vous voyez, Caïn habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Certainement. Voyez? C'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire sous forme de théophanie. Et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme humain que nous avons maintenant. Puis, au chapitre 3, il y a eu la chute et il a été chassé du jardin d'Éden. Ensuite, les enfants ont engendré des enfants. Et Caïn a pris sa femme et a vécu avec elle dans la terre de Nod, en dehors, parce que Dieu l'avait séparé de la communion avec son propre frère, à cause de la mort d'Abel. Et c'est elle qui l'a prise, sa propre sœur, et il l'a épousée. Je ne vois pas comment il aurait pu se marier autrement. Or, on a dit, et j'espère que mes amis de couleur qui sont ici excuseront cette remarque, parce qu'elle est carrément fausse. La première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges de Arc et les autres là-bas. Je marchais et le Seigneur m'a conduit vers un petit endroit. Et ils étaient en train de discuter de l'origine de l'homme de couleur. Ils essayaient de dire que l'homme de couleur, que Caïn avait épousé un animal qui ressemblait à un singe et que la race des gens de couleur venait de là. Or ça, c'est faux. Absolument faux. C'est faux. N'acceptez jamais une chose pareille. En effet, il n'y avait ni race de gens de couleur, ni race blanche, ni aucune race différente. Il n'y avait qu'une race de gens jusqu'au déluge. Alors, après le déluge et la tour de Babel, quand ils ont commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont pris leur couleur et tout. Ils sont tous issus du même arbre. Exactement. Adam et Ève ont été le père et la mère, sur le plan terrestre, de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur Terre. C'est vrai. Noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec le lieu où vous habitez. Et la manière dont, tout comme, je pense que je pourrais exprimer ceci pendant que j'y suis. Les gens ici, maintenant, avec ces ségrégations et ces lois et tout, qu'ils passent, je trouve ça ridicule. Vraiment, écoutez, laissez donc ces gens tranquilles, ils savent ce qu'ils veulent. Dieu a fait qu'un homme soit un homme de couleur et il en est heureux. Tout à fait. Si Dieu avait fait de moi un homme de couleur, j'en serais heureux. S'il m'avait fait brun, je serais heureux. S'il m'a fait blond, je suis heureux. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux. Dieu nous a fait de la couleur qui est la nôtre. Il nous a fait comme il voulait que nous soyons. Et nous sommes tous ses enfants. Tout à fait. Les gens ne devraient pas faire des histoires à n'en plus finir comme ça. C'est mal de faire ça. Ils ne devraient pas. Dieu nous a fait comme on veut. Et l'homme de couleur, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur, en la croisant avec le blond et tout, comme ça. Je ne le blâme pas, non. L'homme de couleur a des choses que le blond ne possède même pas. Tout à fait, exactement. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Eh bien, regardez, l'homme de couleur il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Il a un côté insouciant, un côté « fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste ». Qu'il ait la chose ou pas, il est quand même heureux. J'aimerais bien posséder une bonne dose de cela ce soir, vraiment. Eh bien, il possède cela, c'est sa possession. Et il ne veut pas non plus croiser cela avec une autre race et perdre cette qualité. Exactement. Je pense que la dame là-bas, à Shreveport, a fait l'une des meilleures remarques que j'ai jamais entendues. Elle a fait une remarque et on l'a mise dans le journal. Elle s'est approchée. Elle a dit, d'après la manière dont les choses se passent ici, avec cette ségrégation, je ne veux pas que mes enfants aillent à cette école pour les blancs. Elle a dit, ils ne recevront pas la même attention qu'avec un instituteur de couleur. Cette femme est une femme intelligente. Elle savait ce qu'elle disait. Ils reçoivent une meilleure instruction. Exactement. Donc, je pense que les gens agissent mal en agissant ainsi. Et puis, ils disent « Cain et Abel » et ainsi de suite, comme ça. Non, monsieur, la couleur n'avait rien à y voir. C'est l'esprit à l'intérieur qui a quelque chose à y voir. Exactement. Donc, Cain a connu sa femme et c'était sa sœur. Et il l'a emmenée dans la terre de Nod, et de là sont sortis les grandes tribus de la terre, les hommes religieux et les adorateurs. Et aujourd'hui, réfléchissez un peu, mon ami, arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Il y a des dizaines de milliers, fois des dizaines de milliers et des milliers de milliers de gens qui sont vraiment assidus à l'Église, qui sont tout ce qu'il y a de plus sincère et consacré vis-à-vis de cette Église, et qui sont carrément perdus autant que Cain l'était. Voyez, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit. Voyez, Dieu qui fait miséricorde. L'argile ne peut pas dicter quoi que ce soit au potier. C'est le potier qui est maître de l'argile. C'est vrai. Maintenant, voici une très belle question. La suivante, ici. Dans 2 Pierre 2, 4. Si quelqu'un qui a une Bible veut bien prendre rapidement ces passages, pendant que je les lis, me donner ainsi un coup de main, pendant que nous répondons à cette question. Bon, en ce qui concerne Cain et ces choses, si ce n'est pas satisfaisant, alors faites-le nous savoir. Nous serons heureux. Maintenant, 2 Pierre 2, 4. Bon, très bien, nous y sommes. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, alors pourquoi Christ a-t-il prêché aux esprits en prison dans 1 Pierre 3,19? Bon, nous avons Pierre 2, 4. Premièrement, très bien. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Bon, maintenant, regardons dans 1 Pierre. Ça, c'était 2 Pierre. 1 Pierre 3,19. Écoutez ceci. Nous y sommes, ici même. Celles-ci viennent d'arriver. C'est pour cette raison que je n'ai pas pris ces choses en note. Lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison. Oh oui, nous y sommes. Commençons un peu avant ça. Le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Mon cher ami, si vous aviez lu le verset suivant, c'est expliqué là. Voyez, qui avait autrefois été incrédule, et la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voyez, maintenant, si vous remarquez ici, il me semble que ce prédicateur en a une autre sur quelque chose dans le même ordre d'idée. On y répondra un peu plus tard. 1 Pierre 4 ou 2, 4. Si vous remarquez, car si Dieu n'a pas épargné les anges, anges là, c'est écrit comment? Avec A minuscule. Voyez? Bon. Et ici, les esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Les mêmes anges, c'était des hommes, des messagers, des prédicateurs, n'a pas épargné les anges. Saviez-vous que le mot « ange » vient du mot « un messager » Combien savent qu'ange, c'est « messager » Tout à fait, un ange est un messager, et il n'a pas épargné les anges, voyez. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez que nous en avons parlé il y a quelques semaines, les anges. Et là, dans l'Apocalypse, écrit ceci à l'ange de l'église de Sardes, écrit ceci à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église, vous vous en souvenez? Et nous avons cherché le mot « ange » dans le dictionnaire, et nous avons vu qu'il signifie « un messager ». Ce pourrait être un messager sur terre, un messager surnaturel, le mot « ange ». Donc, dans cet état-là, si nous prenons le lexique et que nous cherchons ça, vous verrez qu'au départ, ce sont des messagers, les premiers messagers. Vous voyez, s'il n'a pas épargné, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voyez, et les êtres surnaturels, voyez, après avoir attendu, maintenant observé, il a dit, si n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les préserve pour le jugement. Ensuite, regardez dans 1 Pierre ici, de nouveau, 3:19. Observez maintenant ce qu'on y lit. Car dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Vous voyez, c'était les messagers de cette époque-là, les messagers, pendant la construction de l'arche, dans laquelle, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Maintenant, si vous remarquez, quand ces êtres étaient au ciel, maintenant, dans Apocalypse 11, ou chapitre 7, je crois, ou non, c'est au chapitre 12, il présente la femme debout, la lune à sa tête et le soleil, ou le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. Et le dragon rouge se tenait là, afin de dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait né. Et avec sa queue, il a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Avez-vous remarqué ça? Or, ça ne veut pas dire que Satan a une longue queue avec laquelle il a attrapé les gens, mais il s'agit de la fable qu'il a racontée, et il a entraîné un tiers de ses étoiles. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Abraham a dit, « Oh, Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Il a dit, « Je ne le peux pas. » Il a dit, « Tu n'arriveras pas non plus à compter ta postérité. » Les étoiles. Qui est l'étoile brillante du matin? Jésus de Nazareth, la plus brillante qui ait jamais vécu dans une chair humaine. Il est l'étoile brillante du matin. Et il est la postérité d'Abraham, qui vient par Isaac. Et nous, étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Donc les étoiles du ciel représentaient les esprits des hommes, ici. Et quand le dragon rouge, Rome, lors de sa persécution, a saisi deux tiers des, ou un tiers des étoiles, les a jetés sur la terre, ça, c'était à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Quand ils l'ont rejeté, et qu'il a été, qu'ils l'ont chassé, et n'ont rien eu à faire avec lui. C'était là, cette troisième partie des étoiles angéliques, des êtres angéliques. Vous voyez, dans votre corps, à l'intérieur de vous, nous avons une autre question à ce sujet. Après, pour y répondre mieux. Donc, quand, à l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme, l'extérieur de vous, c'est un homme, l'intérieur de vous, c'est un autre homme, alors, l'intérieur de vous, c'est le surnaturel, l'extérieur de vous, c'est le physique, voyez. Et cet être, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager de Dieu, ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier, le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Et lequel a la plus grande autorité, un ange du ciel ou un ange à la chair? Lequel? L'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile que celui que je vous ai déjà prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. C'est vrai. Au ciel, son autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez, et je vous accompagnerai. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre, je le délirai dans le ciel. Oh, si seulement la grande Église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'Église ne peut jamais se tenir debout. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties et cette Église a la puissance. Vous voyez? En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, « Allez par tout le monde, vous êtes mes témoins une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous. » Et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'Église est stérile et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Donc, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme d'anges, mais c'étaient les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde. À cette époque reculée où il y avait la guerre au ciel, et Satan et le dragon se sont livrés bataille, et alors où Michel et le dragon se sont livrés bataille, et Lucifer. Et Lucifer a été précipité avec tous ses enfants, tous les anges qu'il avait séduits. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Et quand ils l'ont fait, c'est alors que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes. Ce sont des fils de Dieu. Tout homme qui naît sur cette terre est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit pécheur ou quoi qu'il soit, c'est un fils de Dieu. Créé à l'image de Dieu pour adresser des louanges à Dieu. Il est créé de cette manière-là. Mais Dieu, au commencement, savait qui le recevrait et qui ne le recevrait pas. Par conséquent, il a pu prédestiner, ou non pas prédestiner, mais par sa prescience, il a pu savoir qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Car il savait quelle personne prendrait quel esprit. Et ces esprits qui viennent du trône de Dieu et qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui ont vécu et des milliards d'années, un temps incommensurable, avant le commencement du monde, dans la présence de Dieu. Pensez-vous qu'ils ne savent pas comment adorer? Ils descendent et entrent directement dans les hommes et ils adorent Dieu. Absolument, ils adorent Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents et habiles et instruits, toujours. Mais Dieu les a rejetés dès le commencement. Ainsi donc, mon ami, la filiation à une église ou la connaissance d'une théologie quelconque, ou quelque chose du genre, ça n'a absolument rien à voir. Il faut que ce soit le sang de Jésus-Christ et une nouvelle naissance qui vous unisse à lui. Vous ne formez alors qu'une seule personne. Voilà. Dieu, au commencement, alors qu'il savait que l'homme et la femme ont été faits un, pas deux, ils ont été faits un, ils ont été séparés, l'un placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Il le savait. Donc, afin de vous prouver ça, quand Dieu a fait la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la faire, comme il avait fait l'homme. Il a pris une côte dans le côté d'Adam, et elle est devenue un produit dérivé de l'homme, parce qu'elle est une partie de lui. Vous saisissez maintenant? Voyez? Voilà. Voilà les anges. Et Dieu, et l'esprit qui est uni à Dieu, c'est un seul esprit. C'est vrai. Alors, l'esprit de Dieu qui habite dans l'Église, c'est l'Esprit qui est venu du ciel, que Dieu connaissait avant la fondation du monde, qui a rejeté le mensonge du diable. Et cet Esprit a dû revêtir un corps de chair pour être testé. Il a dû devenir chair comme les autres. Tous ont porté ce même joug. Et Dieu, dès le commencement, savait quels esprits accepteraient et lesquels n'accepteraient pas. Voilà, le diable est si habile qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Donc, ces esprits, ces anges qui ont prêché, étaient en prison. Anges, là, si vous remarquez, c'est avec A minuscule, ce qui veut dire des hommes, des anges, des messagers ici sur la terre. Ils ont péché. La seule façon dont ils ont pu pécher, c'est en refusant de croire. Et la façon, ils ont eu leur propre religion et n'ont pas cru le message de Noé. Ils n'ont pas cru le message d'Enoch. Ils ont rejeté leur message et ils ont été condamnés. La Bible dit, Enoch leur a prophétisé. Il a dit, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Et ils ont prophétisé. Et Noé a construit une arche. Et ils ont dit, c'est un exalté, c'est un fanatique, cette affaire de pluie qui va venir, ça ne tient pas debout. 120 ans se sont écoulés. Et dans sa religion se trouvait le salut. Un moyen d'échapper avait été préparé. mais eux étaient satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvaient. C'est comme ça aujourd'hui. Les hommes sont satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais il y a un moyen d'échapper, et ce moyen, c'est par Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ça. La même tribu, les mêmes esprits. Ils étaient absolument des hommes religieux, très religieux, mais ils ont passé à côté du vœu de l'Alliance. C'est pareil aujourd'hui. Les hommes vont à l'église, ils adhèrent aux grandes églises et cherchent à être la personne la plus populaire de la ville. S'ils veulent adhérer à une église, ils choisissent la plus grande de la ville, la meilleure, celle qui est bien considérée dans la ville. Combien ils passent à côté de leur appel? Combien ils passent à côté? Le seul moyen pour vous de connaître Jésus-Christ, c'est par une révélation spirituelle, pas par la théologie, ni combien vous étudiez la Bible. Que vous soyez de la science chrétienne, méthodiste, témoin de Jéhovah, ou quoi que vous soyez, peu importe ce que vous êtes, vous ne le connaîtrez jamais par la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. C'est une révélation spirituelle. Quand Adam, dans le jardin d'Éden, et Ève, quand ces enfants-là avaient été chassés, alors Caïn s'est présenté avec une bonne théologie. Il a dit, « Dieu devrait savoir que ce que nous faisons là, j'y mets tout mon cœur. Je vais bâtir un magnifique autel. Je vais mettre des fleurs dessus. Je vais mettre des fruits dessus. Je vais l'embellir. Je peux sûrement apaiser Dieu avec ça et lui faire savoir que mon cœur est sincère. » Il avait raison pour ce qui est de la parole. Dieu voulait l'adoration. Il est allé adorer. Il a fait un magnifique lieu d'adoration. Une belle grande cathédrale, comme on dit aujourd'hui. Il l'a faite correctement. Il l'a construite correctement. Il a mis un autel à l'intérieur. Il n'était pas un incrédule. Mais Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là. Mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause de fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden. Que ce n'était pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées. Que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et ce, par le sang d'Adam et par le sang du serpent qui avait commencé ça, Abel, par une révélation divine, est allé prendre un agneau et l'a offert. Et Dieu a dit, « Voilà, c'est ça !» Bien sûr, quand ils sont redescendus de la montagne de la Transfiguration, Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Certains disent que tu es Moïse, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es ce prophète-là. Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Regardez bien, ce n'est pas non plus par la lettre, ce n'est pas non plus par l'école, tu ne l'as jamais appris dans un séminaire, ce n'est pas non plus quelqu'un qui te l'a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voilà, voilà l'Église du Dieu vivant, c'est ça. C'est sur cette Église, c'est sur cette révélation qu'est bâtie cette Église. C'est une révélation divine. Dieu a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et le Saint-Esprit agit. Il est à l'œuvre dans les membres de ce corps. Voilà l'Église. Peu importe qu'elle soit pauvre et dans une mission, qu'on se tienne sous un pin quelque part ou n'importe où, que ce soit dans la maison de quelqu'un, lors d'une réunion privée, peu importe où, ce n'est pas la beauté et ces choses qui exercent un attrait sur Dieu. C'est la sincérité du cœur, par une révélation où Jésus-Christ a été présenté comme le Fils de Dieu, notre Sauveur personnel. Amen. Oh là là, nous, on ne va jamais arriver au bout si on fait comme ça, n'est-ce pas? Voilà ceux qui, vers qui il est allé, là-bas, les anges, les messagers, ces prédicateurs, ces intellectuels, ces messagers qui n'ont pas cru quand Noé est allé leur prêcher et qu'il leur a dit, « Allez, entrez dans cette arche !» Ils ont dit, « Écoutez-moi cet exalté, écoutez-moi ce fanatique. Voyons, il n'y a pas de pluie, qui a jamais entendu pareille chose. Mais voyons, n'avons-nous pas des églises? Ne sommes-nous pas religieux? Mais si, ils étaient religieux. » Jésus a dit que la génération qui avait passé à ce moment-là, que cette génération réapparaîtrait juste avant sa venue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En effet, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Ils avaient leur Reno dans le Nevada à cette époque-là. quelque part. Ils avaient toutes sortes d'absurdités, comme ce qu'on a aujourd'hui. Le badinage, la rigolade, les railleries, les moqueurs et tout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la vérité vraie, l'alliance, le message de la grâce. Dieu avait pourvu lui-même au moyen et donné aux gens son alliance, le moyen qui leur permettait d'échapper. En elle se trouvait le salut. Le salut, c'était un lieu où on pouvait s'échapper. En quoi avons-nous besoin de salut? Aujourd'hui, les gens disent, ne vivons-nous pas sous un bon régime démocratique? De quoi avons-nous besoin? Peu m'importe que nous vivions sous un régime très démocratique ou pas, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. C'est vrai, nous avons besoin de Christ. J'apprécie le régime démocratique. Ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Absolument, ces gouvernements passeront et chaque nation passera. Je me suis trouvé près de, à l'endroit où il y a eu les pharaons. Et il faut creuser le sol à une profondeur de 6 mètres pour trouver les trônes sur lesquels ils se sont assis. Tous les pharaons et tous les royaumes de cette terre et toutes les choses passagères qui s'y rattachent prendront fin et disparaîtront. Mais Jéhovah régnera pour toujours, car il est le Dieu immortel. Sur le rocher, Jésus-Christ, nous nous tenons solidement, car tout autre sol est du sable mouvant. Peu importe si c'est des royaumes s'élèveront et prendront fin, mais oh, il n'y a rien. Peu m'importe si c'est n'importe quoi. Rien de présent, rien de futur, rien. Ni la faim, ni les périls, ni rien ne pourra jamais nous séparer de cet amour de Dieu qui est en Christ. Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus une créature du temps, mais il est une créature de l'éternité. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de l'élément temps à l'éternité. Il ne peut jamais périr. Et Dieu a juré qu'il le ressusciterait au dernier jour. Alors, ils peuvent avoir tout ça, toutes vos grandes églises et tous vos moments de plaisir, tout ce que vous voulez, et raconter vos plaisanteries grossières, avoir vos jeux de loto, vos soupers où on sert de la soupe et tout ce que vous voulez encore, et avoir là un prédicateur instruit. Il se peut qu'il fasse du meilleur travail que certains de ces jeunes qui connaissent à peine leur alphabet. Mais je vous dis la vérité, je préférerais qu'un jeune qui ne connaît pas son alphabet, mais qui connaît Christ, me prêche, plutôt que tous les grands théologiens avec toute l'instruction possible et imaginable. Absolument. Ici, au Kentucky, il n'y a pas longtemps, un jeune qui savait tout juste lire son propre nom disait que le Seigneur l'avait appelé à prêcher. Et il voulait avoir l'école, mais les autorités n'ont pas voulu la lui laisser. Un certain grand prédicateur, avec un nom à rallonge comme ça, est passé par là. Un certain grand docteur en théologie, eh bien, ils lui ont laissé l'école. Bien sûr, il a fait une série de réunions de réveil de 2 semaines, pas une seule âme. Son père est retourné là-bas, il a dit, « Maintenant, vous la lui avez laissée, je suis un contribuable, alors j'ai le droit de demander que mon garçon l'ait. Mon garçon aussi devrait l'avoir. » Il est donc retourné leur présenter la demande. Ils ont dit, « Eh bien, nous allons au moins la lui laisser 2 soirs. » C'est ce qu'ils ont fait. Ils la lui ont laissé 2 soirs. Et ce soir-là, ce jeune s'est avancé là. Il ne pouvait même pas lire la Bible. Il a demandé à quelqu'un de lire son texte. Mais quand il s'est avancé vers l'estrade, il était loin du Saint-Esprit. Et quand il a prêché, une 20aine de personnes sont venues à l'autel. Et là, à l'autel, dans les pleurs, cette femme prédicateur, prétentieuse, s'est frayée un chemin jusqu'au calvaire. Bien sûr, frère, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez, c'est qui vous connaissez. C'est ça qu'il faut. Il faut connaître Christ, le connaître, lui, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Rapidement, prenons les autres questions que nous avons, les questions maintenant qui vont partir en Géorgie. Qu'est-ce que les pierres représentent dans Apocalypse 21, 19 et 20? Si vous désirez prendre le temps d'ouvrir votre Bible, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela maintenant, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. Apocalypse 20, je crois que c'est 21, 19 et 20. Oui, très bien. Là, vous allez voir qu'il parlait des pierres qui étaient dans la muraille. Et les pierres étaient des fondements. Si vous remarquez, je crois que tu l'as, Fresneville, là. Et chaque pierre était un fondement. Ce n'était pas une pierre qui était le fondement et les autres, mais chaque pierre était un fondement. Chaque pierre était un fondement permanent. Il y avait là 12 pierres. Si vous remarquez, ces 12 pierres, chacune, premièrement, ça commençait par le jaspe et la sardoine, et ainsi de suite. Chaque pierre étant représentée. Dans la Bible, vous verrez là qu'elle portait certains noms, ces pierres. Quelques-uns sont un peu différents. Vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous consultez le dictionnaire, vous verrez que c'est la même pierre. Ce n'est que le nom qui est différent qu'on a changé. Mais ça commence par le jaspe. Le jaspe était la pierre de Benjamin, ou la pierre du premier fils, Ruben. La première pierre, c'était Ruben, le jaspe. La dernière pierre, c'était Benjamin. La dernière pierre au sommet. Bon, ces 12 pierres sur lesquelles les fondements étaient posés, ces 12 pierres étaient accrochées au pectoral d'Aaron. Et elles représentaient, il était le souverain sacrificateur de ces tribus. Chacune de leurs pierres de naissance était enchâssée dedans, dans ce pectoral. Et quand les gens voyaient ce pectoral, ils reconnaissaient qu'Aaron était le souverain sacrificateur de toute cette tribu, quand ils voyaient la pierre de naissance sur ce pectoral. Bon, comme nous l'avons entendu ce matin dans le message de Frère Neville, souvent on a porté l'Urim Thummim. Vous voyez cela mentionné dans la Bible. C'était le moyen qui leur permettait de savoir si leur message était la vérité ou pas. Ces pierres, quand on rapportait ce que cet homme avait dit, ce que ce prophète avait prophétisé, ces pierres brillaient toutes ensemble. Ça formait un assemblage de lumière qui amenait le saphir, le jaspe, l'escarboucle et toutes ces autres pierres à refléter leur lumière. Ça formait une grande et magnifique couleur d'arc-en-ciel qui harmonisait l'ensemble. Maintenant, aujourd'hui, alors que cet Urim Thummim a été supprimé en même temps que ce sacerdoce-là, maintenant, c'est cette Bible qui est l'Urim Thummim de Dieu aujourd'hui. Et quand un prédicateur prêche, ce ne doit pas être seulement un petit passage ici sur lequel il place toutes ses espérances. Il faut que la Bible entière reflète le message que cet homme prêche. C'est ça qu'il faut, pas seulement un passage et dire, « Eh bien, la Bible dit ceci. » Oh, bien sûr, elle dit beaucoup de choses. Mais vous devez présenter cela de sorte que tous les éléments forment un ensemble. Et quand l'Esprit de Dieu vient et entre dans la parole, il place tous ces éléments ensemble et reflète une seule grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, ces 12 pierres étaient 12 fondements qui ont commencé avec Ruben et Gad, et ainsi de suite, jusqu'à Benjamin. 12 tribus, 12 pierres. Et ces pierres, dans le temple, dans la nouvelle Jérusalem céleste, chaque fondement sera posé sur un des patriarches. Maintenant, observez, remarquez ces pierres. Maintenant, vous allez observer comment ces patriarches se reflètent encore dans autre chose, là, dans une autre question. Expliquez le quatrième, les quatre animaux d'Apocalypse 5. Frère Neville, si tu as ça sous la main, ou quelqu'un d'autre, Apocalypse 5, nous allons prendre un instant pour le lire. C'est une très belle image ici des... Tenez, je l'ai aussi, Apocalypse chapitre 5. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans, et en dehors, et sur le revers, scellé de sept sceaux. Bon, ce n'est pas l'endroit. Je veux prendre juste un peu plus loin, les quatre animaux. Voyons un peu. Le verset 14. Bon, très bien. Maintenant, allons-y. C'est bien ça. Maintenant, commençons ici au verset 12. Non, je pense que... Et les quatre animaux disaient « Amen ». Non, il y a un petit passage avant ça, Frère Neville. Voici, j'entendis la voix. Voyons un peu, un instant. Je lisais ça tout à l'heure. Oh, nous y voici. Commençons au verset 6, le verset 5. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant sept têtes et sept yeux, qui sont les sept esprits envoyés à la terre. » J'aimerais que vous reteniez cette question, et si je n'y reviens pas dans un instant, j'aimerais que vous me la rappeliez. J'aimerais parler de ça, des sept esprits, des sept yeux qu'avait l'agneau. Oh, ça, c'est vraiment très beau. Bon, nous voulons prendre la question de ce frère maintenant. Très bien, alors n'oubliez pas ça. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lorsqu'il eut pris, les quatre animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, chacun ayant une harpe. Maintenant, voici les quatre animaux, si vous remarquez. Maintenant, continuons et lisons un peu plus loin. Harpe d'or, pleine de coupes et de parfums, et les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne. Et ils ont continué à offrir toute leur adoration au Seigneur. Or, ces quatre animaux de l'Apocalypse, si vous les observez, chaque passage, vous qui lisez la Bible, entre autres l'homme qui va écouter cet enregistrement, ces quatre animaux, ils avaient quatre faces. L'un avait la face d'un homme, l'autre avait la face d'un bœuf, et l'autre face était celle d'un aigle, et l'autre face était celle d'un lion. Et il n'allait jamais à reculons. Il ne pouvait pas aller à reculons. Combien se souviennent du vieux livre de l'Apocalypse, quand on l'a enseigné il y a des années, quand j'ai pris environ 2 ans pour traiter ici du livre de l'Apocalypse? Beaucoup des vieux de la vieille s'en souviennent. Regardez, ils ne pouvaient pas aller à reculons, parce que, quelle que soit la direction qu'ils prenaient, ils avançaient. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme l'homme. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le lion. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme l'aigle. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le bœuf. Vous voyez, ils ne pouvaient pas aller à reculons. Ils avançaient tout le temps. Alors, ces quatre animaux, maintenant, afin de traiter ceci rapidement, parce que je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, mais les quatre animaux, un animal dans la Bible, représente une puissance. Et remarquez, ces animaux n'étaient pas là-bas, dans l'étang ou dans la mer, quelque part, en train de monter de là, mais ils étaient devant le trône de Dieu, et ils adoraient Dieu. Ces quatre animaux signifient quatre puissances qui montent de la terre, et ces quatre puissances étaient les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ne se contredisent pas l'un l'autre. L'un d'eux, quand l'évangile s'avance comme le lion, il est sévère, il est hardi. L'évangile est courageux comme le lion, et c'est un roi comme le lion. S'il avance avec la face de l'homme, il est rusé et habile comme l'homme. S'il avance comme l'aigle, à lui le vol rapide et les sommets élevés. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avance comme le bœuf, c'est le cheval de labour qui peut tirer. Le bœuf de labour qui tire le fardeau de l'évangile. Les quatre animaux étaient les quatre puissances, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les quatre évangiles qui retentissaient dans la présence de Dieu. C'était, si vous remarquez, ils avaient des yeux devant et derrière. Ils partout où ils allaient, ils reflétaient. Ils voyaient partout où ils allaient. Et ça, c'est la puissance des évangiles quand il est proclamé. Il a l'habileté de l'homme, il a la rapidité de l'aigle, il a la puissance de traction, est un porteur de fardeau comme le bœuf. Il a la sévérité et la hardiesse du lion. Vous voyez, ce sont les quatre évangiles qui sont les quatre puissances dans Apocalypse chapitre 4. Très bien, maintenant la suivante. Qui sont les 24 anciens? Très bien, je crois que ce serait qui sont les 24 anciens? Maintenant, ça, c'est vraiment simple. On peut prendre ça. Les 24 anciens étaient assis devant le trône. Ça, c'est je crois que c'est au verset 4 que ça se trouve. Et il sortit un autre. Il faut que je... Voyons un peu. J'ai 4:10. Très bien. Apocalypse, chapitre 4 et le verset 10. C'est ça. Nous allons le prendre. Et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant celui qui était assis sur le trône et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône, disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Maintenant, les 24 anciens. Un ancien, c'est un surveillant. Maintenant, remarquez, c'était 12 patriarches et 12 apôtres. Et ils étaient assis 12 d'un côté et 12 de l'autre. Là se trouvaient les 24 anciens, qui étaient les 12 patriarches d'un côté l'Ancien Testament, les 12 apôtres de l'autre côté, du Nouveau Testament. Jésus n'a-t-il pas dit, « Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël » Et puis les fondements, là. Regardez, il y a même un arbre là-bas. Et l'arbre, sur les deux bords, produit 12 fois du fruit. Ils rendent leurs fruits chaque mois. Il y a 12 mois par année. Ils rendent 12 fois des fruits chaque année qui passe. 12, le nombre de l'adoration. Vous voyez, et il y a 20 et 4, ce qui fait 24. 12 apôtres et 12 patriarches. Ils sont assis devant le trône. Très bien, maintenant le quatrième verset, ou la quatrième question. Que représentait le fil cramoisi de Genèse 38? Le fil cramoisi, si vous remarquez, c'était Judas. Il avait eu des fils, et l'un de ses fils avait épousé une cananéenne. Cette cananéenne n'a pas eu d'enfant, et ce fils-là est mort. Alors la loi, à ce moment-là, disait qu'il fallait prendre, que le fils suivant devait prendre la femme du frère, et susciter une postérité à celui qui était mort. Cet autre homme n'a pas coopéré, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, et le Seigneur l'a fait mourir. Puis, il avait un jeune fils. Alors Judas a dit, « Attends, jusqu'à ce que ce fils arrive, sois grand, jusqu'à ce que tu puisses l'épouser. » Et quand il est devenu assez grand pour devoir épouser l'ancienne femme de ses deux frères, eh bien, il aurait dû alors la prendre, afin de susciter une postérité à ses frères qui étaient morts avant lui. Judas n'a pas donné à cette femme, à cette cananéenne, son fils, ce jeune homme. Elle a laissé faire ce qu'il voulait. Donc, tout en sachant qu'elle agissait mal, elle est sortie de chez elle. Elle a couvert son visage d'un voile et s'est assise dans un lieu public comme l'aurait fait une prostituée. Judas est passé par là et a pris cette femme comme si c'était la sienne. Elle a fait la prostituée et il a eu une relation avec elle. Et il a dit, elle a dit, « Quel marché veux-tu conclure avec moi ?» Et il a dit, « Je donnerai un chevreau. » Il a dit, « Eh bien, donne-moi un gage que tu le feras. » Alors, elle lui a pris son bâton et son cachet et tout, et les a gardés. Et quand ils ont amené le chevreau, ils n'ont pas trouvé la prostituée, puisqu'elle n'était pas une prostituée. Après quelque temps, elle a présenté des signes qu'elle allait être mère. Et quand elle a présenté des signes qu'elle allait être mère, on est venu dire à Judas, « Ta belle-fille s'est prostituée. » Ils ont dit, « Parce qu'elle, elle va être mère, et tes deux fils sont morts. » Il a dit, « Eh bien, on la fera sortir, et qu'elle soit brûlée. » Alors, elle a envoyé dire à Judas, elle a dit, « L'homme qui a fait ça, c'est celui à qui appartenait ce bâton et ce cachet. » Bien, c'était son beau-père. Et il a dit, « Elle est moins coupable que moi. » Or, quand elle a su que le moment était venu d'accoucher de ses enfants, c'était des jumeaux. Et quand le jumeau, le premier bébé qui allait naître, selon la vieille coutume juive, le premier enfant a le droit d'aînesse, le premier enfant qui apparaît. Et ça, souvenez-vous, c'était son premier enfant. Aucun des fils n'avait eu d'enfant d'elle. Elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant. Et quand son premier enfant est apparu, il a montré seulement une main. La sage-femme y a attaché un cordon de fil cramoisi, parce que le cordon de fil cramoisi évoquait la rédemption, que le premier fils de la Vierge Marie aurait le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Et quand il a retiré sa main, c'est l'autre qui est sorti le premier. Et quand il a fait ça, elle a dit, « Pourquoi as-tu fait ça ? C'est l'autre qui a le droit d'aînesse. » Alors, voilà ce que signifie Genèse 38. Vous voyez, c'est que le premier né, et c'est ce qui a subsisté jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, que le premier était sous la loi du rachat. Vous savez, j'ai dit, le petit mulet, vous savez, dont j'ai parlé, qui avait les yeux n'importe comment et les oreilles rabattues, mais s'il naissait avec un droit d'aînesse, un agneau innocent, parfait, mourrait à sa place. Voilà, c'est ça. Donc, voilà pour ce qui était du droit d'aînesse. Le premier bébé qui est apparu en sortant de la mer, ils ont vu cette main, et ils savaient qu'elle allait peut-être rentrer de nouveau. Et quand il a avancé la main pour montrer que c'était lui qui l'avait, qu'il était le premier, la sage-femme y a attaché le fil cramoisi, et il a retiré la main. Voyez ? Mais il était le premier, absolument. C'était le cordon de fil cramoisi. Le cordon de fil cramoisi qui, tout au long de la Bible, signifie la rédemption. Cela annonçait la venue du premier-né. Le premier cheval qui naissait, la première vache qui naissait, quoi que ce soit, tout premier-né qui sortait était sous la loi du rachat, devait être racheté, tout devait être racheté. Alléluia! Oh, cela me remplit de joie! Est-ce que vous saisissez? Le premier devait être racheté. C'était une loi. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand Jésus-Christ est né, il a racheté le monde entier. Certainement, il était le rédempteur de toutes les créatures jamais créées sur la terre. Il était le rédempteur. Et là, toute rédemption se trouve en lui. Et vous ne pouvez venir par aucun autre moyen, ni par les bonnes œuvres, ni par une adhésion à l'Église, ni par quoi que ce soit. Vous devez venir par ce cordon de fil cramoisi, ce rédempteur, ce parent rédempteur. Très bien, maintenant la suivante, c'est où seront les présents, quels seront les présents envoyés en rapport avec la mort des deux témoins d'Apocalypse 11? Oh, frère Palmer, quelle question tu peux poser? Donc, la rédemption, ces cordons ici, ce cordon de fil cramoisi, nous voyons que ça signifiait la rédemption. Maintenant, la question suivante, c'est que sont les présents dans Apocalypse 11? Il viendra un temps. Maintenant, ceci va répondre à une question à laquelle on a répondu l'autre soir, qu'un de mes amis prédicateurs a écrite à propos des Juifs. Comment ce serait? Or, il y a 3 ans et demi qui ont été promis à ces Juifs. Combien savent ça? 70 semaines ont été promises. Il est dit, le Messie viendra et sera retranché au milieu. Christ a prêché 3 ans et demi. Il a été tué après exactement 3 ans et demi. Il a prêché 3 ans et 6 mois. Et alors, l'abomination qui cause la désolation, la mosquée musulmane d'Omar, a été érigée sur la Terre Sainte. Comme Dieu l'a dit, 2500 ans avant que ça arrive, qu'elle se trouverait là. Le prophète l'a vu, il a vu ça, et il a dit que les gens des nations en auraient la possession jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Maintenant, il y a encore 3 ans et demi qui ont été promis. Si vous remarquez, ces témoins d'Apocalypse 11 prophétisent pendant 1260 jours, exactement 3 ans et demi. Donc, ils étaient revêtus de sacs. Maintenant, observez leur ministère, ce qu'ils sont. Or, ces deux témoins sont tués. Alors, ils étaient retournés vers les Juifs après l'enlèvement de l'Église des Nations. L'Église des Nations rentre à la maison pour le souper des noces. De même que Rebecca a été emmenée dans la demeure d'Abraham avec Isaac, et que là, ils se sont mariés. Après quoi, Rebecca et Isaac se sont avancés en pleine possession de tout ce qu'Abraham avait. Tout est revenu à Isaac. Absolument. Et ça ne pouvait pas revenir à Isaac tant qu'Isaac n'était pas marié. Oh, alléluia! Voilà, c'est ça! Et Christ devient Dieu demeure entièrement, pour toujours et tout au long de l'éternité, dans ce corps parfait qui avait été défiguré. Une fois que l'agneau et l'épouse sont mariés au ciel, elles s'avancent en pleine possession. Absolument. Isaac et Rebecca se sont avancés en pleine possession. Et pendant que cette cérémonie a lieu dans le ciel, où l'épouse des nations se marie avec le prince, le Fils de Dieu, dans la gloire. Pendant qu'ils se marient, 3 ans et demi s'écoulent durant lesquels les Moïse et Élie. En fait, Moïse n'a jamais été absent. Non, son corps a été emporté. Les anges l'ont pris. Il ne s'est pas décomposé. Il ne s'est pas corrompu. Il était un type parfait de Christ. Il est mort et les anges l'ont emporté. Et même le diable ignore où il a été enseveli. Il a essayé de disputer sa sépulture à l'archange Michel. C'est ce que la Bible dit. Dieu l'a pris dans l'enlèvement. Et Élie, quand il marchait là, lui, un prophète de Dieu, il est descendu au Jourdain. Il a ôté son manteau et a frappé les eaux. Et elles se sont partagées à droite et à gauche. Il est monté sur la montagne. Élisée a dit, pourquoi me suis-tu? Il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Il a dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je m'en irai, il ne l'a pas quitté des yeux. Au bout d'un moment, un char de feu, des anges de feu et des chevaux de feu sont descendus du ciel. Et Élie est monté sur ce char et il est parti dans la gloire. Il n'a jamais goûté à la mort. Il a été enlevé. Il faut qu'il meure. Et si vous observez ces deux prophètes d'Apocalypse 11, ils font exactement ce que Moïse et Élie ont fait. Vous dites, frère Branham, est-ce que vous voulez dire par là qu'Élie et Moïse sont encore en vie? Absolument. En effet, avant la montagne de la transfiguration, à la montagne de la transfiguration, avant que Jésus aille au calvaire, Moïse et Élie se sont tenus tous les deux là et se sont entretenus avec lui. Certainement, ils ne sont pas morts. Ils ne sont jamais morts. Ce sont des mortels. Il faut qu'ils meurent. Donc, ils sont simplement dans un état glorifié, dans l'attente de ce temps-là. Et alors, quand ils reviennent et prêchent exactement 3 ans et demi, sous l'onction du baptême du Saint-Esprit, alors que les bénédictions ont été retirées aux gens des nations, que l'Église a été enlevée, que les gens de l'Église froide et formaliste sont pourchassés comme des chiens par les partis communistes et romains, qu'ils sont pourchassés et tués, qu'ils sont alors tués. Ces prophètes prêchent 3 ans et demi, et la Bible dit qu'ils ont été tués sur la grande, sur la place, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. Ça, c'est là-bas, à Jérusalem. Vous voyez, là-bas, à Jérusalem, qui est appelé ainsi dans un sens spirituel. Et ils sont restés étendus sur la place pendant 3 jours et 3 nuits. Puis, à la fin des 3 jours et demi, l'esprit de vie est entré en eux. Et ils se sont relevés. Il fallait qu'ils meurent comme les autres mortels. Il le fallait. Et quand ces deux prédicateurs ont été tués, ils ont prêché contre ce qui était mal. Et ils ont fait descendre le feu du ciel. Qui a fait ça? Voyez, ils ont fait descendre des plaies du ciel. Ils ont frappé la terre aussi vite que chaque fois qu'ils le voulaient. Et ils ont fait descendre le feu du ciel. Ils ont fermé les cieux pour qu'il ne pleuve pas aussi longtemps qu'ils le voulaient. Qui était-ce? Précisément Moïse et Élie. Voilà ces deux témoins. Et quand ils ont tourmenté l'Église ou le monde par leur prédication, ils ont accueilli de nouveau les Juifs. Ils les ont ramenés à la repentance. Ils les ont ramenés à la foi en... Quand ils verront Jésus venir chercher l'épouse, ils diront, « Voici, c'est notre Dieu, celui que nous avons attendu. C'est lui !» Mais il ne vient pas pour eux. Il vient pour son épouse. Et son épouse, quand Joseph est allé en Égypte, il n'a pas emmené ses frères avec lui, mais il a pris sa femme là-bas. Absolument. Mais quand il s'est fait connaître à ses frères, personne n'était présent. C'est tout à fait vrai. Et quand il se fera connaître à ses Juifs, il n'y aura là personne d'autre que les Juifs. Ceux qui avaient tué Joseph se tenaient là. Et il a dit, « Eh bien, je suis Joseph, votre frère. » Et il a pleuré. Et ils ont dit, « Maintenant nous savons que nous allons le payer cher, parce que nous l'avons tué. » C'est la même chose. Ces Juifs auront ce grand temps de détresse, juste avant la venue. Maintenant, cette persécution qui les ramène dans leur patrie, cela les chasse comme un troupeau de moutons pour les faire retourner à la montagne du Carmel là-bas. Quand le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse et qu'ils le verront, ils diront, « C'est celui que nous avons attendu, le voilà !» Il se lèvera avec la guérison sous ses ailes. C'est vrai. Et l'Église, le reste des Juifs, quand finalement ils tueront ces deux prophètes et que ceux-ci resteront étendus sur la place qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié, ils s'enverront des présents les uns aux autres. C'est ce que le monde fera. Maintenant, frère Palmer, voici, reprends l'histoire romaine et tu verras qu'il n'y a qu'une seule nation qui envoyait des présents après une bataille. C'est l'Empire romain. C'est pour cette raison que je dis que l'Antichrist sort de Rome. La bête sort de Rome. Elle ne peut pas sortir de Moscou. Elle vient de Rome. Le dragon rouge qui se tint devant la femme afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Ce démon, où était ce démon? Qui était-ce? César Auguste, qui a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Le dragon rouge, le dragon, une bête, ça représente une puissance. La puissance romaine a persécuté et a essayé de trouver cet enfant Christ. Et la même chose, chaque fois que les Romains païens de l'Antiquité, remportaient une grande victoire, ils s'envoyaient les uns aux autres des pierres blanches et tout, en guise de présent, comme ça, en souvenir. Donc, ces pierres qui, ce que c'était de petits présents qui étaient échangés au sein de l'Église romaine. Absolument, c'est exact, forcément. Je me suis trouvé là, à la cité du Vatican, et je l'ai vérifié dans la Bible. Le pape qui porte une triple couronne, Vicarius, Filii, Dei, toutes ces choses que j'ai entendues et tout, sont l'exacte vérité. Un groupe religieux qui gouverne chaque nation sous le ciel. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est bien ça. Rien contre les catholiques. Non, monsieur. Ils sont aussi bons que n'importe qui d'autre. Mais leur religion est fausse, d'après cette Bible. Si cette Bible est vraie, ils sont dans l'erreur. Ils disent qu'ils ne... Peu importe ce que la Bible dit, ce qui compte, c'est ce que l'Église dit. Nous, nous croyons que la Bible parle avec l'autorité suprême. Absolument. C'est la parole de Dieu. Donc, vous voyez là, ces pierres qui ont été envoyées à ce moment-là, ici dans l'Apocalypse, ce sont les pierres qui étaient des présents qu'ils se sont envoyés les uns aux autres. Ça ne fait que montrer, la Bible dit, l'Apocalypse ici dit, que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête, que celui qui a de la sagesse fasse telle chose, que celui qui a l'esprit de certains dons fasse telle chose. Vous voyez combien l'Église est loin du compte? Ce matin, un jeune homme m'a questionné à propos des dons spirituels, à propos du parler en langue. Un jeune homme très sincère, je crois qu'il entrera bientôt dans le ministère. Et à propos de l'Église, j'ai dit, tant de choses qu'on y trouve sont poussées par la chair. Nous ne voulons pas de ça, mais ce que nous voulons, c'est la chose authentique. C'est ce que nous désirons tant avoir. On ne peut pas se mettre à enseigner ces choses dans l'Église. Bien vite, on en a un qui a une langue. Un qui a un cantique, et après, se débarrasser de ça, c'est tout un combat. Mais quand c'est Dieu qui a souverainement donné un don, celui-ci se manifestera tout seul. C'est vrai, vous voyez, ça, ce sont les dons de Dieu. C'est ce que lui, il envoie à l'Église, pour la victoire. Or, l'Antichrist a quelque chose, c'est comme le pour et le contre. Il a la manière pervertie de faire ça. Voilà, c'est l'Empire romain. Eux, ils s'envoient des présents les uns aux autres. Des dons naturels. Dieu envoie des dons spirituels aux vainqueurs. Les Romains, eux, s'envoient des dons naturels les uns aux autres. Nous croyons que le Saint-Esprit est un esprit. Nous le recevons par un baptême qui vient d'en haut. L'Église catholique enseigne une sainte Eucharistie, qui est le corps de Christ, que lorsque vous recevez ce pain cachère, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, la sainte Eucharistie, voyez. Nous, nous croyons que c'est un morceau de pain. Nous ne croyons pas que c'est le corps de Christ. Nous nous apprêtons à le prendre dans quelques minutes. Nous croyons qu'il représente le corps de Christ. Mais ce n'est pas... C'est la différence entre la doctrine catholique et la doctrine protestante. Voyez ? L'Église catholique dit « le corps est ». Le pain est le corps littéral. L'Église a le pouvoir de transformer ceci. Avez-vous déjà vu un catholique passer devant une église, incliner la tête et faire des signes de croix? C'est parce que cette petite lumière brûle dans l'église-là, à l'intérieur de ce petit tabernacle. Il y a une petite lumière là-dedans, et ce pain cachère s'y trouve, et c'est le corps de Christ. Et quand vous prenez ça, vous prenez carrément le corps littéral de Christ, lors de votre première communion et de vos confessions et tout. Vous prenez littéralement le corps de Christ. Nous, nous disons que cela représente le corps de Christ. Vous voyez que ce n'est absolument rien d'autre qu'un morceau de pain. Et peu importe, même si ce n'était pas du pain, si c'était n'importe quoi d'autre, ça le représenterait quand même. C'est exact. C'est comme ces gens qui disent « Je ne voudrais pas être baptisé dans un bassin. Je veux être baptisé dans la rivière. » Qu'est-ce que ça change, pourvu que vous soyez baptisé? Si c'est dans un bassin d'eau, Philippe a été baptisé dans un bassin d'eau quand l'eunuque a été baptisé. Quand Philippe a baptisé l'eunuque dans le bassin d'eau, le Saint-Esprit l'a enlevé à tel point qu'il a transporté Philippe. On ne l'a revu que 300 kilomètres plus loin. Il l'a transporté par l'Esprit. Ils lui ont envoyé du ciel un char pour l'emmener 300 kilomètres plus loin. Amen. Merveilleux. Maintenant, où seront les saints après le règne de 1000 ans? Et quel genre de corps auront-ils? J'y reviendrai dans un instant. Ils seront avec Jésus. Très bien. La septième question. Comment jugerons-nous les anges? Ça se trouve, comment jugerons-nous les anges? Du fait que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Nous, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et la Bible dit que nous jugerons les anges. C'est vrai. Bon, maintenant, si vous... La huitième question. Pourquoi les cheveux à cause des anges de 1 Corinthiens? Maintenant, que quelqu'un me cherche 1 Corinthiens, le chapitre 11, et nous verrons, là, vous allez constater que dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous constatons que c'est Paul qui parle. Donnez-moi un instant pour prendre cela. Nous allons le lire en vitesse, et alors nous l'aurons. J'ai quelque chose à dire sur cet autre verset, ici. J'espère que le Seigneur va nous le donner comme il faudrait que nous l'ayons. Si quelqu'un le trouve, il me semble bien que c'est le chapitre 11. Oui, très bien. Maintenant, écoutez attentivement, très attentivement maintenant, pour que vous compreniez. Maintenant, tout votre conscient, mettez ça dans votre poche de gilet, jusqu'à ce que j'ai fini de lire. Vous voyez que j'ai commenté cela. Écoutez très attentivement. Ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul a dit, suivez-moi, tout comme moi je suis Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez comment c'est? Dieu, Christ, l'homme, la femme. Bon, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore Christ. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Maintenant, nous allons prendre un instant pour vous montrer que c'est la chevelure de la femme qui est son voile. C'est comme si elle était rasée. Ça veut dire que si elle a l'intention de se couper les cheveux, alors qu'elle se les rase complètement. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Couper signifie raser, vous voyez. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Maintenant, nous en venons à la question que vous posez, voyez. Très bien. Alors effectivement, c'est mal pour une dame de se couper les cheveux, selon la Bible. Maintenant, écoutez ici et voyez si la Bible ne donne pas à l'homme le droit légal de répudier sa femme, si elle se coupe les cheveux. Voyez si c'est vrai ou pas. Si l'homme ne doit pas se couvrir la tête, c'est-à-dire avoir les cheveux longs, puisqu'il est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. Avez-vous déjà pensé à ça? Maintenant, je veux m'arrêter ici, parce que je veux que ceci pénètre profondément, vous voyez. Et maintenant, souvenez-vous, j'ai vu des dizaines de milliers de femmes charmantes que je connais en ce moment, et il y en a beaucoup qui sont assises dans cette église, qui ont les cheveux courts, qui sont chrétiennes. Et ce n'est pas sur vous que je rejette la responsabilité de cela, mais sur la manière dont vous avez été enseigné. Voyez, c'est ça. Votre prédicateur ne vous l'a jamais dit. Par contre, si des femmes qui fréquentent le tabernacle sont comme ça, alors elles sont coupables. Vous voyez, parce que nous leur en parlons, ça c'est sûr. Bon, maintenant, regardez bien ceci. L'homme, verset 7, l'homme. Maintenant, qui parle ici? Il arrive qu'une dame dise, « Oh, Paul était un vieux misogyne !» Bon, eh bien, pendant que nous y sommes, prenons donc Galates 1:8, ici, pour voir ce que Paul en dit. Vous voyez, dans Galates 1:8, vous constaterez que Paul dit ici, dans Galates 1:8, « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez déjà entendu, qu'il soit anathème, alors ne me blâmez pas, c'est lui qu'il faut blâmer, vous voyez. » L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à la gloire et à l'image de Dieu, tandis que la femme est à la gloire et à l'image de l'homme. Maintenant, regardez bien le verset suivant. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est vraiment dans l'amour et la douceur. Et j'espère que vous le comprendrez de la même manière que je le dis. Mais l'Amérique, moi qui voyage à l'étranger, je trouve que l'Amérique est le pays qui a, pour ses femmes, des règles parmi les plus avilissantes, les plus dégradantes de tous les pays du monde. Paris, en France, aurait l'air d'un gratte-ciel à côté de la manière dont l'Amérique laisse faire ses femmes. C'est une honte. Vous êtes-vous rendu compte que le Dieu de l'Amérique, c'est la femme? Je peux vous le prouver par cette Bible. C'est vrai. Vous rendez-vous compte qu'il doit en être ainsi pour que l'Église catholique puisse introduire sa doctrine de la Vierge Marie? Maintenant, si la femme n'a pas été créée à cause de l'homme, pas si l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais que c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme, alors comment pouvez-vous adorer une femme? Voyez? Maintenant, ce qui est à l'origine de ça, cette chose a commencé à Paris, et a atterri à Hollywood. Maintenant, Paris doit venir à Hollywood pour chercher ses modèles et chercher ses modes et tout. Voilà la déchéance de nos femmes américaines. Qu'est-ce que c'est? Notre nation a atteint une telle bassesse qu'on a même enlevé des emplois aux hommes pour mettre des femmes dans ces lieux de travail. Alors, on en est au point où pratiquement 90% d'entre elles sont des prostituées. Et parlons des hommes. Eux, ils sont finis. C'est sûr, parce que ce sont des femmes qui font leur boulot. Et on est tombé tellement bas qu'on met des femmes dans la rue comme gardiennes de la paix. Ça, c'est une honte pour n'importe quelle nation. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Qu'est-ce que vous faites face à cette situation, frère Branham? Je dois respecter ça. Je suis citoyen américain. Je fais ce que le grand patron dit. Si une famille perd un jour le respect pour la famille, que les enfants perdent le respect envers les parents, c'est l'éclatement de cette famille. Si une église perd un jour le respect envers son pasteur, alors c'est la fin de cette église. Et si une nation perd un jour le respect pour sa Cour suprême et ses décisions, c'est la désintégration de cette nation. C'est tout à fait exact. Nous devons respecter ces choses, parce que c'est eux le grand patron, vous voyez. Mais dès le départ, ce n'est pas correct. Absolument. Saviez-vous que l'homme, dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 1, quand Dieu a créé la femme et l'homme, qu'il a fait l'homme et la femme, alors Dieu a dit à Ève que « ton mari dominera sur toi, il sera ton chef ». Dites ça en Amérique et vous verrez où ça vous mènera. Oh, ce n'est pas comme ça. C'est la femme qui domine sur l'homme. Forcément, les établissements publics sont organisés. S'il le fallait, je pourrais faire venir des femmes qui se sont présentées dans mon bureau, là. Des douzaines de femmes très bien. Je ne dis pas que toutes les femmes ne devraient pas travailler. Parfois, elles sont obligées de le faire. Elles ont peut-être un mari malade ou quelque chose comme ça. Et elles sont obligées de travailler. Mais si ce n'est pas une obligation, elles ne devraient pas le faire. Leur place est au foyer, leur petit château. C'est exactement là qu'elles devraient être. On a accordé à nos femmes américaines le privilège de s'émanciper, quitte à en mourir. Même parmi tous les animaux et tout, quand cette situation domine, alors ça provoque la déchéance de toute la race. Il y a un petit oiseau en Afrique, et c'est un genre de petit pic. Or, généralement, la femelle est toujours la plus laide des deux. Le mâle est toujours le plus beau. Le cerf mâle, le wapiti mâle, le faisan mâle, le poulet mâle. Il est toujours le plus, parce que la femelle, c'est l'oiseau du foyer. Elle reste sur le nid, elle élève ses petits, elle est camouflée à la vue du faucon, du serpent, du coyote et quoi encore, vous voyez, pour élever ses petits. Mais dans la race ou dans le sexe ou c'est la femme ou la femelle qui domine sur le plan de la beauté, c'est toujours la déchéance. En Afrique, prenons un oiseau. Il y a là-bas un petit oiseau et, à ma connaissance, c'est le seul oiseau sur les différents continents dont la femelle est plus belle que le mâle. Et ce qui arrive, cet oiseau se prostitue sans cesse. Elle trotte partout pour trouver un mâle. Elle va pondre des œufs après s'être accouplée avec lui. Et elle laisse le mâle couver les œufs pendant qu'elle part à la recherche d'un autre mâle. C'est tout à fait vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, maintenant, regardez, en Amérique, aujourd'hui, les femmes de chez nous. Un jeune homme du Kentucky m'a dit, il y a quelques jours, que 800 femmes travaillaient dans une certaine usine ici au Kentucky. Et il a dit, je pourrais jurer, sans risque de me tromper, que 400 d'entre elles sont de vulgaires prostituées. Et ce sont des femmes mariées qui ont des enfants. Un gars a fait sortir sa femme là-bas. Elle l'a tabassée avec une planche et il a failli la tuer. Un autre est allé tirer sur un homme. Un autre a donné des coups de couteau et s'est battu. Ça ne devrait pas être. Ce n'est pas bien. Remettez la femme à la cuisine, c'est là sa place. Et alors tout ira bien. Mais faites-la travailler dans des établissements publics et elle est finie. Absurde. Je ne dis pas que les femmes américaines ricanent avec un air hautain. Elles disent, il n'y a rien de vrai là-dedans. Et montrez-moi. Forcément, vous allez le faire. Parce que la Bible a prédit que vous le feriez. Vous êtes obligés de le faire. Tenez, quand autrefois, il y a longtemps, dans une église méthodiste, si une femme se coupait les cheveux, elle était exclue de l'église. Certainement, c'est ce qu'ils faisaient. Oh oui, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes, tous le faisaient. Qu'est-il arrivé? Vous savez pourquoi? On s'est retrouvé avec des poules mouillées derrière la chair. C'est tout à fait vrai. Quelqu'un qui a peur pour son gagne-pain, peur qu'on l'excommunie, qu'on le chasse de l'Église. Ils n'ont pas eu le cran de prendre position, de s'en tenir à la parole de Dieu, qu'elle blesse ou pas. C'est tout à fait vrai. Écoutez bien, l'homme est le chef. N'allez pas croire que c'est vous qui dirigerez la maison. Ce n'est pas vous le chef de la maison. Vous êtes absolument, vous n'êtes pas une esclave. Mais par contre, vous êtes une aide. Et Adam, l'homme, domine sur sa femme et il est seul responsable de sa femme. Dieu demandait compte à l'homme. Il doit répondre de sa femme. Maintenant, lisez et voyez si c'est bien ce que Dieu dit. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image et à la gloire de Dieu. Dieu n'est pas une femme. Dieu est un homme. Vous savez, quand ils font de la Vierge Marie et tout ça, et qu'ils intercèdent, ou ses intercessions, et toutes ces choses, et qu'ils prient la Vierge Marie. Vous savez ce que ça me rappelle? La grande déesse Diane, que Paul a réprimée et chassée. C'est vrai, il a dit, « Voyons donc, Dieu n'est pas une femme. » Un rocher était tombé dans un champ, et on disait que la déesse avait fait tomber du ciel sa statue. C'est pour cette raison que les femmes à Corinthe, et dans cette région, les qui adoraient Diane, elles ont voulu devenir prédicateurs. Elles ont dit, « Mais l'Esprit nous a dit que nous pouvions prêcher. » Il a dit, « Quoi? Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie? Et est-ce de chez vous seul qu'elle est sortie? Si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Que la femme se taise et qu'elle soit soumise dans l'Église. Elle ne doit ni enseigner, ni prendre autorité en quoi que ce soit. » C'est exact. C'est ce que dit l'Écriture. Voyez, au jour du jugement, Dieu demandera des comptes à un grand nombre de prédicateurs. Ils devront répondre de cela. Eh bien, écoutez, vous dites, eh bien, je vous assure que c'est ce qu'on m'a enseigné. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. C'est vrai. Si vous ou quelqu'un s'apprêtait à prendre une dose de médicament et que quelqu'un vous dise que c'est de l'arsenic et que vous passiez outre et le preniez quand même, alors là, c'est votre faute. Voyez, maintenant, écoutez ceci. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Quelqu'un parmi vous est-il en train de le lire? 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 10. Si vous remarquez « autorité », pourquoi? À cause des anges. 1 Corinthiens, parce que les anges, ce sont les hommes, les messagers. Regardez, c'est encore A minuscule. Quand il est question d'ange, d'ange céleste, c'est un grand A, A majuscule. Quand c'est A minuscule, il s'agit d'ange homme. Toutefois, dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. La femme n'est point sans l'homme, l'homme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Tout vient de Dieu. Jugez vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu avec les cheveux courts, sans être voilée? Pensez-y, là. Maintenant, regardez bien. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que, pour l'homme, de porter de longs cheveux? Vous dites, de quoi était-il question, là? De cheveux. Ne voyez-vous pas de quoi Paul est en train de parler? De cheveux longs. Si la femme devrait avoir les cheveux longs. Le verset 14 maintenant. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Vous saisissez? C'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Mais c'est la place de la femme. Dieu a fait l'homme différent de la femme, au niveau du sexe et de l'apparence, et de tout le reste. Elle ne devrait pas porter un vêtement. La Bible dit que si une femme met un pantalon ou n'importe quel vêtement d'homme, c'est un spectacle abominable, malpropre, dégoûtant devant Dieu. Et Dieu lui fera payer ça. Qui allez-vous écouter? Mais ceci, c'est la Bible. Vous allez dire partout, « Comment, moi, je trouve que c'est joli pour de voir les femmes en pantalon ?» Mais Dieu les a faites différentes. Il veut qu'elles s'habillent différemment. Et la Bible dit, « Pour une femme, même d'enfiler un vêtement d'homme, c'est une abomination. » Vous savez ce qu'est une abomination? c'est quelque chose qui est dégoûtant aux yeux de Dieu. Et le grand Jéhovah qui vous considère comme une chose dégoûtante. Et la Bible dit, « Et vous qui dites, mesdames, certains d'entre vous là, qui laissez vos jeunes filles à l'âge de l'adolescence, de 18, 20 ans, sortir par ici, habillées comme ça, et vous aussi, maman, voyez, quand vous sortez et que vous portez ces pantalons et tout ça, et que vous vivez, que vous allez dans la rue et que vous portez ces espèces de vêtements qu'on fait de nos jours et qui vous donnent l'apparence de quelque chose que vous n'êtes pas, voyez, et vous sortez dans la rue avec une allure très sexy. Il se peut que vous soyez tout à fait innocente et pure vis-à-vis de votre mari et tout. Mais si vous sortez dans la rue et qu'un homme vous regarde parce que vous vous êtes présenté comme ça, vous êtes coupable et au jour du jugement, vous aurez à répondre d'avoir commis un adultère avec tous les hommes qui vous auront regardé comme ça. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et vous êtes coupable. Et vous arriverez au jugement et direz, Seigneur, tu connais mon cœur. Je n'ai jamais commis d'adultère. J'ai été fidèle à mon mari. Mais ici, il y aura un homme. Ici, il y en aura un autre. Ici, un autre, un autre, un autre. 15, 20, 30, 40 qui se tiendront là, disant, coupable d'adultère. Pourquoi? Des hommes vous auront regardé. Eh bien, je n'ai eu rien à voir là-dedans. Eh bien, alors pourquoi vous êtes-vous présenté comme ça, alors que Dieu vous avait dit de ne pas mettre ça, que c'était une abomination de le faire? Vous vous êtes mise à écouter « Qui aime Suzy ?» ou « Quelle est ce ?» Est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé au mari de « Qui aime Suzy ?» Vous avez tous vu ça dernièrement, là, dans le journal. C'est sorti que nous étions à Casper, dans le Wyoming. Et comment s'appelait-il? Ce gars qui, dans l'émission « Nous aimons Suzy » ou « Qu'est-ce que c'était donc ?» l'émission qui passe le mercredi soir, là, que vous regardez à la maison, plutôt que de venir à la réunion de prière. Qu'est-ce que c'est déjà? Nous aimons... Quel est le nom de ça? J'aime Lucie. Son mari est censé être en train de se démener. Il s'est fait prendre, là-bas, à Reno, dans le Nevada, avec une fille de couleur. Il avait une liaison avec elle depuis des années. Et c'est pour regarder ça que vous restez à la maison, plutôt que d'aller écouter l'Évangile? La femme l'a avoué. Oh, miséricorde! En dehors de Jésus-Christ, rien n'est pur. Soyez bénis, frère. Je vais vous dire une chose, mon ami. Certains des... Vous dites, oh là là, mais quelle classe! Regardez-moi ça. Certains des pires vautours que nous ayons, les charognards, sont de beaux oiseaux. On ne peut pas juger un oiseau à son plumage, vous voyez? Alors, souvenez-vous-en. Oh là là. Maintenant, regardez bien. La nature elle-même, ça, c'est au verset 14. Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est réservé à la femme. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Maintenant, de quoi parle-t-il? D'un chapeau que vous, les catholiques, portez à l'église? Oh, que non! D'une petite coiffe sur le sommet de votre tête? Faites avec un mouchoir. Il parle de vos cheveux. Bon, et si une femme se coupe les cheveux, elle coupe sa gloire, et il ne lui est pas permis d'aller prier à l'autel. Vous voyez exactement ce qui est dit ici. Est-il convenable qu'une femme aille prier sans avoir la tête voilée? Il dit ici, il dit, eh bien, il faut qu'elle se coupe les cheveux, alors qu'elle se rase, qu'elle ait le crâne complètement lisse. Et si elle se rase, qu'elle a le crâne complètement lisse, il dit, c'est un déshonneur, c'est une honte pour une femme de faire ça. Alors il dit, elle devrait être voilée. Bon, moi je ne fais que lire la lettre de Paul. Vous maintenant, c'est à vous de décider, vous voyez? Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui était donnée comme voile. Est-ce qu'il est dit qu'on lui donnera un chapeau? Vous les catholiques, ou vous les protestants, l'un ou l'autre, qui allez à l'église et voulez porter un chapeau, qui dites, « Eh bien, je vais à l'église, je devrais mettre un chapeau. » Non, vous devriez laisser pousser vos cheveux. C'est bien différent, voyez? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et c'est une honte pour elle d'entrer de l'église sans être voilée, d'aller prier à l'autel. Si quelqu'un se plaît à... Je ne crois pas que j'arrive à prononcer ce mot. C-O-N-T-E, contester, contester. Vous savez ce qu'est contester? Nous n'avons pas cette habitude non plus que l'Église de Dieu. Maintenant, si vous voulez argumenter à ce sujet, débattez-en avec cela. Très bien. Si vous voulez contester à ce sujet, oh, ça ne change rien, ça. Laissons-les faire. Voyons, pour moi, ce n'est rien. De toute manière, ce n'est pas une question de cheveux, c'est une question de cœur. C'est vrai. Si le cœur est comme il devrait être, les cheveux seront comme ils devraient être. Oui. Allez-y, si vous voulez contester. Paul a dit, nous n'avons pas cette habitude, non plus que l'Église de Dieu. Il a dit, si vous voulez vous mettre du côté de Caïn, eh bien, alors allez-y. Mais ceci, c'est ce que Paul a dit. Oh, et je ne veux pas rire, parce qu'il n'y a pas de quoi rire. Mais je vous le dis, mes amis, c'est honteux de voir qu'on ait pu permettre de faire toutes ces choses. Écoutez, quant à vous, mes chères sœurs, oui, je veux que vous soigniez votre présentation et que vous donniez le meilleur de vous-même. C'est comme ça que vous devriez être. C'est comme ça que vous devriez être. Vous devriez resplendir de fraîcheur et de douceur et tout quand votre mari rentre. C'est pareil, il est toujours votre chéri. Vous devriez l'accueillir à la porte avec un baiser aussi doux que le jour où vous l'avez embrassé à l'autel et qu'il est devenu votre mari. C'est vrai, je ne peux pas vous reprocher de soigner votre présentation et de donner le meilleur de vous-même. Je veux que vous soyez comme ça. Dieu le sait. Il y a quelque temps, je parlais à Jack Schuller. Qui a entendu parler de Jack Schuller, le plus célèbre prédicateur qu'ont les méthodistes? Il a dit, une femme est venue et a dit, ses cheveux étaient crasseux, elle mâchait du chewing-gum, elle était à moitié dévêtue. Elle disait, vous savez, mon mari n'arrive plus à me supporter. Il a dit, je ne peux pas le lui reprocher. C'est vrai. Bon, c'est ce que vous devez faire, mais vous devez le faire de la bonne manière. N'allez pas chercher votre fraîcheur et votre beauté à Hollywood. Allez les chercher dans la Bible, devant Dieu. Soyez une dame. Conduisez-vous comme une dame. Habillez-vous comme une dame. Soyez propre. Conduisez-vous comme une dame. Ne portez pas ces... Tout homme qui laisse sa femme sortir, se présenter devant des hommes, vêtus de ces espèces de petites choses, sortir sur la pelouse et tondre le gazon, ce genre de choses-là. Monsieur, je vais vous dire une chose, mon frère. Je ne veux pas être méchant. Dieu le sait. C'est mon cœur qui parle. Mais je vais devoir, il faudra que je change énormément avant que je laisse la mienne faire ça. Je serai le chef là-haut sur la colline, aussi longtemps que je le pourrai, vous voyez. Et quand je ne le pourrai plus, je m'en irai, c'est vrai. Oh frère, c'est honteux et déshonorant pour les femmes de faire ça. Et je ne veux pas dire, sœur, je ne suis pas en train de vous rabaisser. J'essaie juste de dire, notre église ici n'a pas de membres. Les gens viennent ici tout simplement. Mais ceci est une maison de Dieu, et nous disons clairement aux gens de ne pas porter ces choses, que ça, vous aurez à en répondre au jour du jugement. Maintenant, regardez bien ici, et laissez pousser vos cheveux, vous voyez, et soyez une dame. Maintenant, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez pour, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et ainsi de suite. Ça passe maintenant à la table de communion. Maintenant, écoutez ça. Voilà pourquoi les anges. Maintenant, frère Palmer, sur cette bande, je ne te dis pas de prêcher là-bas la même chose que moi ici. Mais tu sais pertinemment, étant toi-même prédicateur, tu sais que c'est la vérité, frère. Très bien. Donc, les anges ici sont les hommes. Si tu remarques, frère Palmer, c'est une minuscule. Les anges. Et la Bible continue. Il parle là de l'homme et de sa femme, tu vois. C'est ça le sujet. C'est ce qui fait que les gens s'embrouillent tellement avec la Bible. Ils disent, eh bien, Dieu dit une chose ici et une... Non, vous sortez du sujet. Restez dans le même sujet. C'est tout. Il parle là de l'homme et de sa femme. Maintenant, encore une chose que j'aimerais aborder juste avant de terminer. Ça me prendra environ 2 minutes. Où seront les saints après le règne de 1000 ans? Et quel genre de corps auront-ils? Je trouve cette question absolument charmante. J'aime vraiment ça. Maintenant, regardons-la de plus près. Au commencement, Dieu, nous allons reprendre notre enseignement sur l'Épître aux Hébreux pendant quelques minutes. Dieu était cette très grande source de 7 couleurs. Combien savent ça? Voyez, et combien savent que Dieu a 7 esprits? Absolument, 7 esprits. Et l'agneau avait 7 yeux, et ainsi de suite. Maintenant, tous ces éléments réunis, voyez, or ça, c'était Dieu. Or, quand lui, le Logos, est sorti de Dieu, c'était Dieu qui venait de cette grande source unique et qui entrait dans un corps ayant la forme d'un homme. Et c'est ce qui a fait le Logos, que nous appelons théophanie. Maintenant, si vous considérez la théophanie, lorsque vous la regardez, c'est un homme. Or, c'est là que nous étions au commencement. Bon, vous ne le comprenez pas maintenant, mais c'est comme ça que vous étiez là-bas au commencement. Quand Dieu a fait l'homme à son image, il a fait une théophanie, et il l'a seulement placé dans la chair. Quand Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse 2, dans Genèse 1, 28, je crois, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol, et Dieu avait déjà fait mâle et femelle. C'est vrai. Pas d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu a fait descendre l'homme à un niveau un peu inférieur et l'a placé dans la vie animale. C'est ce corps-ci qui est semblable à celui des animaux pour qu'il puisse cultiver le sol, qu'il puisse toucher. Cette théophanie ne touche pas, elle ne voit pas, ne goûte pas, ne sent pas, n'entend pas. C'est sens que nous avons. Alors Dieu a placé l'homme là pour qu'il puisse toucher et sentir. Et alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden, il était d'abord une théophanie, comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment, en train de marcher ici, qui conduisait les animaux. Elle avait autorité sur tout, mais elle ne pouvait pas cultiver le sol, vous voyez? Alors Dieu a placé l'homme dans une chair pour qu'il puisse cultiver le sol. Il lui a donné ses cinq sens pour cultiver le sol et s'occuper des vignes et tout. Mais l'homme semblait quand même souffrir de la solitude. Oh, quelle belle image! Regardez, c'est que, quand il avait été créé au début, il avait été créé deux personnes ensemble. Il avait été créé à la fois mâle et femelle, l'homme. C'est ce que la Bible dit. Dieu a créé l'homme à la fois mâle et femelle. Il le créa. Remarquez, alors quand l'homme a été séparé de la théophanie et placé dans une chair, il n'était pas complet. Là, une partie de son être était toujours une théophanie. Alors c'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Chez les bovins, le mâle et la femelle sont passés par là. Le cheval est passé, le bœuf est passé, et tous les autres sont passés par pair. Mais Adam, vous voyez, quelque chose manquait. C'est justement cet état de manque qui indiquait qu'une compagne l'attendait. Vous saisissez? La pensée qu'ici nous devons mourir, que nous sommes préoccupés et perplexes, et que nous aspirons à une vie où il n'y a pas de mort, cela indique que cette vie-là nous attend. Voyez? Et Adam se sentait seul. Alors Dieu, pour montrer qu'il ne pouvait pas être séparé. Maintenant, je vais revenir à cette même chose dans un instant. Regardez, il n'est jamais allé prendre de la terre pour former Ève, mais il l'a formée avec la terre originale, Adam. Il a pris de son côté une côte et lui a fait une aide, et c'était Ève. Elle était faite pour l'homme, et elle est une partie de l'homme. Au commencement, lors de la création, elle était une partie de lui, sous forme de théophanie. Elle était une partie de lui, ici, dans cette création-ci. Elle ne pouvait pas être séparée dans une autre création. Il fallait qu'elle provienne de la même création. Voilà précisément pourquoi il fallait que Christ et Dieu soient exactement la même personne. Ça ne pouvait pas être autrement. S'il avait été un homme bon ou un prophète, il n'aurait pas été un rédempteur. Il fallait qu'il soit le Créateur lui-même. Mais il est encore une théophanie maintenant. Vous voyez, et comme il l'était alors. Alors l'homme est venu ici-bas et il se portait à merveille. Et Dieu a aimé cela. Il a dit, c'est magnifique qu'ils soient sur la terre et qu'ils y vivent pour toujours. C'est tout, pour l'éternité, de façon ininterrompue. Que ça pousse, que chaque plante produise, et tout comme ça. Que l'homme vive, que les animaux vivent, et tout le reste, au siècle des siècles. C'est très bien, voyez? Et alors, le péché est entré. Je voudrais faire cette déclaration. Tellement de personnes se trompent terriblement par rapport à ce passage-ci de l'Écriture. Le psaume 23. Ils le lisent comme ceci. « Quand je marche dans la vallée sombre de l'ombre de la mort. » Or, ce n'est pas du tout comme ça. La Bible ne dit pas ça. « L'ombre sombre de la vallée sombre de l'ombre de la mort. » Elle dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Or, avant qu'il puisse y avoir une ombre, il faut qu'il y ait de la lumière pour projeter une ombre. Vous voyez, David étant prophète et sous l'onction, il ne s'est pas trompé. Il a simplement dit la vérité. Quand je marche, non pas dans la vallée sombre, mais dans la vallée des ombres de la mort. Or, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de lumière pour projeter une ombre. Et c'est comme ça ici. Nous sommes à la fois naturels et surnaturels. Ce corps-ci est assujetti à la mort et a été mis au monde par une femme. Par rien d'autre que par... Non pas par Dieu. Vous êtes un produit d'Adam et Ève, par reproduction. Que vous soyez noir, blanc ou quoi que vous soyez, vous êtes un produit, un descendant d'Adam et Ève. Et de ce fait, votre corps est né dans le péché, a été enfanté dans l'iniquité, est venu au monde en disant des mensonges. Vous êtes perdu et condamné au commencement de votre vie, sans même la moindre chance. Alors, puisque l'esprit que vous avez vous a été donné par la nature, et par la nature, il a été transmis par le rapport sexuel, le désir entre un homme et une femme qui produit un enfant terrestre. Si cet enfant est livré à lui-même, qu'on ne lui enseigne rien de bien, il tournera mal. Si on ne lui enseigne ni ce qui est bien, ni ce qui est mal, il prendra ce qui est mal. Parce que c'est sa nature de faire ça. Observez un petit bébé, pas plus haut que ça, qui fait une grosse colère. Il se tord les mains, son visage devient tout rouge, il retient son souffle. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est sa nature. Il a hérité de son papa ou de sa maman, de l'un des deux. Elle avait un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Ou bien, c'était son papa. Si ce n'était pas eux, c'était son grand-père ou sa grand-mère. Vous voyez, il est leur descendant. Et de ce fait, vous êtes né dans le monde. Vous y venez par la nature. Et tout votre être est noir, sale, condamné, maudit, et se dirige vers l'enfer. C'est vrai. Mais quand vous naissez de nouveau, alors la lumière de Dieu resplendit dans cette âme. Alléluia! Alors ce n'est plus une vallée sombre, mais c'est une vallée avec une ombre. Il se peut que vous soyez voilé ici par la chair et par différentes choses qui couvrent notre visage. Mais il y a là assez de lumière. Et un jour, cette lumière et ces ténèbres devront se séparer. Et quand la lumière brille, les ténèbres se dissipent. Quand nous partons pour être avec Christ dans ce corps-là, les ténèbres et la mort disparaissent et nous surgissons alors de la lumière parfaite. Gloire à Dieu! Voilà, plus de maladie, plus d'obscurité mélangée à ça. Actuellement, nous avons à la fois la maladie et la joie. Nous avons la santé et la force. Nous sommes en dedans et en dehors. Nous avons des hauts et des bas, de la joie, de la tristesse, toutes sortes de choses. Eh bien, ce n'est qu'une ombre. Nous avons assez de lumière pour savoir que là-bas, il y a la lumière. Et nous sommes toujours dans ce corps, dans la chair. Mais un jour, le jour va se lever. C'est quand l'ange de la mort se tient au pied du lit. C'est quand le médecin dit que tout est fini et que le naturel se sépare du surnaturel, que la lumière bondit pour retourner vers la lumière et que les ténèbres retournent vers les ténèbres. Alors ce corps mortel revêt l'immortalité. C'est là que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. C'est là que ce corps mortel revêt l'immortalité et que nous sommes transformés d'une créature du temps en une créature de l'éternité. Vous ne pouvez pas vous diriger là-bas si vous êtes dans l'obscurité totale. Il vous faut avoir de la lumière dans les ténèbres. Voilà, c'est ce corps-là que vous recevez. Que faisons-nous? Eh bien, mon cher frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, avant la fondation du monde, quand Dieu vous a créé à son image, ou a créé l'homme à son image, et créé la femme à l'image de l'homme, pour la gloire de l'homme, il vous a fait sous forme de théophanie, tout comme lui-même, quand il a dit « faisons » aux créatures qu'il avait faites, « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », une théophanie. Dieu n'était pas encore devenu chair, il était dans une théophanie. Et Moïse l'a vu, Moïse s'est écrié « Seigneur, laisse-moi te voir. » Il a dit, « Va là-bas et cache-toi dans le rocher, dans le creux. » Et Moïse est allé dans ce creux. Et quand Dieu est passé, des éclairs et des coups de tonnerre. Et pendant que Dieu passait, il avait le dos tourné comme ceci. Et Moïse a dit, « C'était le dos d'un homme. » Alléluia ! Qui était-ce? Le Melchisédek qui était descendu, le roi de Salem, sans père ni mère, sans commencement de jour ni fin de vie. C'est lui et il est descendu. C'est lui qui avait parlé à Abraham. Il s'était formé un petit corps de chair, comme ça, et pff, il avait soufflé dedans, était entré dedans, et il était descendu et avait mangé du veau, bu le lait d'une vache, mangé du beurre et du pain de maïs, avec les deux anges. Quand ils sont allés là-bas, tout cela s'est simplement volatilisé et a disparu. Je n'y avais jamais pensé. Il y a quelque temps, je chargeais une cartouche de carabine. J'avais une carabine 22 long rifle. C'est une 220 Swift. Vous, les frères tireurs ici, vous connaissez ça. Cette petite balle, c'est une balle de 48 grains, à peu près longue comme ça, une balle de 22 ordinaire. La puissance de la charge dans la chambre est presque celle d'une 30-06. Maintenant, la charge prévue en fabrique permet d'atteindre environ 1350 mètres par seconde. Bien, mais en mettant assez, en la chargeant vous-même, vous pouvez atteindre jusqu'à 1500 mètres par seconde. Et autrement dit, si vous tirez, nous tirions l'autre jour à 200 mètres et la balle touche la poussière, la faisant voler avant même qu'on entende l'écho du coup de feu. Ça donne une idée de sa vitesse. Alors, prenez un cure-dent, vous savez, la partie plate d'un cure-dent, et plongez-le dans votre poudre. Remplissez cette chose de poudre, juste environ 4 ou 5 petits grains. Déposez ça là et ensuite, mettez votre balle là-dedans. Vous êtes là. Et en l'espace d'une seconde, vous avez une balle dans la main. Tirez alors sur la marmotte qui se trouve à 60 mètres de vous, et la marmotte ne bougera même pas. La balle retourne à son état originel. Elle se transforme de nouveau en gaz. Voici une balle composée d'un mélange de cuivre et de plomb. Et en une fraction de seconde, elle sera retournée à ça, si bien que vous ne la retrouverez plus jamais. Elle est retournée à ce qu'elle était il y a 100 milliards d'années. Elle s'est transformée de nouveau en gaz. Ces gaz doivent se solidifier et redevenir du cuivre et du plomb, et ainsi de suite, comme ça. Ces gaz doivent se déposer. Alors, voilà, c'est comme ça que nous sommes ici. Nous venons d'un être supérieur. Au commencement, nous étions à l'image de Dieu. Le voile et les ténèbres nous empêchent de le reconnaître maintenant. Mais Jésus a dit à ses disciples qu'il était avec eux avant la fondation du monde. Voyez, nous y étions. Vous ne pouvez pas le reconnaître maintenant, mais vous étiez là au commencement. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Alléluia! Et alors nous entrerons dans cette théophanie où nous avons déjà vécu. Ainsi, nous pourrons manger et nous serrer la main. Et les âmes sous l'autel crient « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il y a sept marches qui mènent à Dieu, sept esprits, alors qu'il descend. Très bien, quand vous allez sous l'autel de Dieu, il criait « Seigneur, jusqu'à quand ? D'ici, pouvons-nous retourner là-bas » Dieu a dit « Juste quelques temps encore, jusqu'à ce que vos semblables aient souffert comme vous. » Voyez ? Ensuite, les âmes retournent sur la terre et redeviennent des hommes et des femmes qui vivront pour toujours quand toutes les ténèbres, que la mort, la maladie et le chagrin de l'obscurité auront disparu. Il n'y aura plus d'ombre, il y aura uniquement la lumière du soleil. Écoutez, voilà, peu importe qu'il fasse complètement nuit, il ne fera jamais assez nuit pour empêcher le soleil d'écraser toutes ces ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas demeurer longtemps ensemble, car là, lequel est le plus puissant? C'est la lumière. Et quand la lumière brille, les ténèbres se dissipent. Amen. N'êtes-vous pas content? N'êtes-vous pas heureux de savoir? Il n'y a pas de doute, pas même une ombre nulle part. Mais cette lumière bénie qui est dans nos cœurs maintenant même, c'est quelque chose qui rend témoignage. Le Fils de Dieu, la puissance de Dieu. Et alors, nous entrons ici, nous regardons descendre la puissance du Saint-Esprit qui vient dans la réunion et dit, « Vous êtes Madame un tel, vous avez fait telle chose à tel endroit, vous souffrez de ceci depuis tant de temps, mais ainsi dit le Seigneur, levez-vous, vous êtes guéri. » Et une personne qui est infirme et un aveugle se lève, et un homme rongé par le cancer, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, reprend vie et recouvre la santé. Il n'y a pas de doute, Jésus a dit, « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. » Et il a dit, « Je ne fais rien sans que le Père me l'ait d'abord montré. » Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière qui est venue se mêler à ces ténèbres, vous voyez, pour nous racheter. Vous saisissez ce que je veux dire? Alors, un jour, il y aura un retour tout droit vers elle. Et alors, quand la théophanie redeviendra une chair immortelle, comme au commencement, alors Jésus viendra. Et Dieu, quand Christ sera un, Christ s'assiera sur le trône et tous seront des êtres humains. Christ sera sur le trône de David, un homme, le Seigneur Jésus, pour ne jamais mourir. Et nous, nous ne mourrons jamais, nous ne serons jamais malades, nous n'aurons plus de chagrin, et nous vivrons la période des 1000 ans. Et à l'échéance de la période de 1000 ans sur cette terre, le diable réapparaît, et la seconde résurrection se produit, la résurrection des injustes. Ils rassemblent une grande armée, semblable au sable de la mer, et ils viennent entourer le camp des saints. Et c'est alors que Dieu fait pleuvoir du ciel, du feu et du soufre, et les détruit. Et Jean a dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Là, il a dit, sa femme, l'agneau et l'épouse seront là pour toujours. Il y aura une nouvelle terre, des millions et des millions de kilomètres carrés. Oh là là, cette ville, la Bible donne les dimensions de cette ville, un carré de 24 000 kilomètres de côté. Elle a 24 000 kilomètres de long, 24 000 kilomètres de large et 24 000 kilomètres de haut. C'est exactement la description que la Bible donne de la ville. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus de mer. Il n'y avait pas de place pour elle. Oh, ce sera tellement beau. Et là-bas, au trône de Dieu, il y a une source qui coule devant le trône. Il y a un arbre de chaque côté de l'arbre du fleuve de la vie. Et sur cet arbre, on trouve 12 fois du fruit. Il donne son fruit chaque mois. Là se trouvent les 24 anciens. Là se trouve l'épouse. Là se trouvent les 144 000, les eunuques du temple. Oh frère, nous allons quelque part. Il y a des choses qui nous attendent. Les 4, les 24 anciens, les 144 000 eunuques, l'épouse assise avec Christ. Oh, vous parlez, ma maison, ma douce maison. Amen. Dire que j'ai le privilège de pouvoir aller là-bas et que vous avez le privilège de pouvoir aller là-bas. Pourquoi choisiriez-vous de marcher dans ces ténèbres et de ne pas voir de lumière, de mourir et d'aller dans le chaos et de devenir rien du tout? En effet, quand la lumière exerce son autorité suprême, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Allez donc trouver où sont passées les ténèbres quand la lumière arrive. Ce sera comme ça à ce moment-là, quand toutes choses seront ramenées à Dieu. Les ténèbres ont eu un commencement. Les ténèbres auront une fin. La lumière n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin non plus. Dieu n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin non plus. Alors, un jour, tout ce monde dépravé, avec tout son péché et sa pseudo-beauté, avec tout son fantastique et ses sensations, et avec tout son tape-à-l'œil, tout cela disparaîtra dans le néant et il n'en restera rien. Il n'en restera rien, on n'y pensera plus. Il est même dit, on ne se rappellera même plus ces choses. Mais les bénis de l'Éternel seront toujours avec lui. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, et nous vivrons avec lui, nous mangerons avec lui, nous nous assiérons avec lui, et nous demeurerons avec lui, dans tous les siècles des siècles, et pendant des temps incommensurables. Et les âges éternels se dérouleront dans un monde sans fin. Vous avez un choix à faire ce soir. Si vous n'êtes pas prêt à aller à cet endroit, peu importe combien vous êtes assidu à l'église, quel membre d'église exemplaire vous êtes perdu tant que Christ ne vous a pas donné une vie nouvelle dans ces ténèbres où vous marchez. Il se peut que vous soyez religieux. Religieux, écoutez mes amis, une religion, c'est quelque chose d'intellectuel. Voyez, tous les enfants de Caïn ont toujours eu de la religion. Les Juifs avaient de la religion quand Jésus est venu, mais ils ont rejeté le salut. Vous êtes peut-être très religieux ce soir. Vous êtes peut-être presbytérien, méthodiste, pentecôtiste, nazaréen, pèlerin de la sainteté. Vous êtes peut-être tout ce qu'il y a de plus religieux. Vous allez à votre église et vous témoignez. Peut-être que vous chantez, que vous poussez des cris de joie et que vous louez le Seigneur. Peut-être que vous apportez vos dîmes à l'église. Peut-être que vous traitez correctement votre prochain. Ça n'a absolument rien à voir avec votre destination éternelle. Caïn a fait tout ça, absolument. La Bible dit que le blé et l'ivraie croissent ensemble. Le petit plant de blé qui est là est assoiffé. Il attend la pluie et les ronces aussi. Quand la pluie vient, les ronces sont tout aussi heureuses de recevoir la pluie que le blé. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, prions pendant que vous examinez vos fruits. Maintenant, Dieu notre Père, il y a eu des questions difficiles ici ce soir. Je n'ai peut-être pas fait la chose juste, mais j'ai fait de mon mieux. Tu connais mon cœur. Je te prie, ô Dieu, d'accueillir cela. Et alors, pour certaines de ces questions, peut-être, si je n'ai pas présenté les choses correctement, alors toi, parle au cœur des gens et présente-les comme il faut. Il me semble que c'est toi qui m'as parlé. Mais si jamais je m'étais trompé, alors pardonne-moi. Et je prie, ô Dieu, que chacun prenne ces choses dans son cœur, qu'il puisse les méditer et penser comme ceci. Oui, voilà où en est l'Église. Voilà où en sont les choses. C'est ce que la Bible dit. Peut-être que les dames, Seigneur, tu sais que je ne visais personne quand je leur disais ces choses. Mais, ô Dieu, j'aime mes sœurs, et tu le sais, Père. Tu sais ce que je pense d'elles. Mais de me tenir là et de leur dire quelque chose de faux, je serai un imposteur pour elles. Je ne souhaite pas être un imposteur pour mes sœurs. Je veux leur dire la vérité. Et Père, je tire cela directement de ta parole. Et maintenant, je ne condamne pas mes frères, mais Seigneur, je dis qu'ils ont eu tort de permettre ces choses. Et si la dame était au courant et qu'elle l'a fait quand même, alors ça la regarde. Le pasteur n'est pas coupable. Abba, Père, ces choses sont ta parole, elles t'appartiennent. Maintenant, parle au cœur des gens, je te les confie tous. Je verrai ce que tu as fait, Père. Toi, tu sais, parle à chaque cœur. Nous le demandons au nom de Christ. Et avec nos têtes inclinées, je me demande si quelqu'un voudrait lever la main, dire, « Frère Branham, ayez une pensée pour moi, que je puisse être vainqueur en tout, et au dernier jour, porter l'habit de noces et être avec Christ. » Voulez-vous lever la main, dire, « Priez pour moi ?» Gardez tous la tête baissée maintenant. Restez inclinés. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Là-bas, que Dieu vous bénisse, mes sœurs, et mes frères aussi qui levaient la main. C'est merveilleux. Maintenant, Père, tu vois leurs mains. Je sais, parfois vous pensez, comment, juste une petite prière comme ça? Oh Dieu, je pense à cette mère qui a dit hier que juste une petite prière là, dans sa maison, ce jour-là, alors que ce garçon se mourait, plus que 3 semaines à vivre avec cette tumeur maligne au cerveau. Et voilà, c'est ce qui a changé le cours des choses. Je pense à Ézéchias, qui a tourné son visage contre le mur en pleurant. « Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi, car j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. » La mort s'est changée en vie. Un seul cri du Fils de Dieu, Lazare, sort et un mort est sorti. « Oh Dieu, tu as dit, parlez, demandez, et l'on vous donnera. Quand vous dites quelque chose, croyez que ce que vous dites arrive, et ce que vous aurez dit vous sera accordé. Maintenant, Père, je prie que tous ceux qui ont levé la main reçoivent ce qu'ils ont demandé en levant la main, qu'ils soient bénis. Et, ô Dieu, je te prie d'aider nos sœurs, pour qu'elles soient, fais qu'elles se conduisent correctement, alors que Satan, par la télévision et les magazines sentimentaux, et toutes ces choses qui ont été utilisées avec tant de légèreté, des émissions non censurées, les obscénités et la vulgarité à la télévision et tout, qui se pourrait être un instrument pour gagner des millions d'âmes à toi. Mais comme ces choses ne sont pas censurées, qu'on diffuse toutes ces saletés qu'ils, oh, comme c'est lamentable, et de savoir que l'esprit du diable tourne autour de nos sœurs et s'est introduit parmi elles, les poussant à suivre la mode et à s'habiller comme ça. Et nous voyons que c'est parmi nos frères aussi. Seigneur, ils s'imaginent qu'ils peuvent fumer, boire et agir comme ça, et être quand même chrétiens du fait qu'ils disent qu'ils croient. Fais-leur savoir que le diable croit aussi, et il n'est pas sauvé. Il croit, et il tremble. Et maintenant, Père, nous te prions d'être miséricordieux envers nous tous et de nous pardonner nos péchés. Et peut-être que certains n'ont pas levé la main. Ô Dieu, sois miséricordieux. À la prochaine occasion qu'ils auront, puissent-ils lever la main. Nous sommes sur le point de prendre la communion, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses et nos erreurs passées. Que nous recevions ta bénédiction, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolé de vous retenir comme ça. C'est que je me demande, juste avant la communion, s'il y a quelqu'un qui est venu pour qu'on prie pour lui, qui voudrait qu'on prie pour lui. Eh bien, nous le ferons volontiers à l'instant, s'il y a quelqu'un qui désire qu'on prie pour lui. Très bien, frère. Amenez-la tout de suite. C'est bien. Juste un instant. Et ensuite, nous allons terminer le service. Et alors, quand nous aurons terminé le service, alors ceux qui veulent rester pour la communion pourront rester. Mais maintenant, nous allons prier pour les malades. Qu'est-ce que la Bible dit? Si le frère ne peut pas se lever, ça ne fait rien. Laissez-le assis là. Nous irons vers lui. Ça ne fait rien. Laissez-le assis là. Nous descendrons prier pour lui. Ça ne fait rien. Très bien, monsieur. Laissez-le assis là. C'est difficile pour lui d'être debout ici. Alors nous viendrons volontiers vers lui. Maintenant, je veux juste mentionner cette petite chose, mon cher ami. Vous voyez, je sais que le Seigneur a démontré ceci à maintes reprises, si souvent. Vous voyez, je ne suis pas un prédicateur extraordinaire. Je n'ai pas d'instruction et tout ça. J'aime le Seigneur Jésus. Dieu le sait. Je l'aime. Mais il y a une chose que j'ai été appelé à faire, c'est de prier pour les malades. Le croyez-vous? Même avant que je connaisse le don, j'avais l'habitude d'aller ici à l'hôpital. Et je me souviens que les infirmières disaient, « Maintenant, vous allez vous rétablir. » Voyez, c'est juste quelque chose. C'est que Dieu, dans sa grâce, a bien voulu honorer mes prières pour les gens. J'imagine, ce soir, que si on lançait un appel général dans le monde entier, partout dans le monde, et qu'on dise que tous ceux pour qui Frère Branham a prié viennent ici, j'aimerais que vous répondiez par écrit au gouvernement des États-Unis, et cela serait diffusé dans le monde entier. Je pense qu'il y aurait peut-être 4 ou 5 millions de personnes qui répondraient à cet appel si on le diffusait. Voyez? Et ces gens, certains d'entre eux étaient déjà morts, laissés pour morts par le médecin et l'entrepreneur de pompes funèbres. Certains avaient été tués dans des accidents. Certains étaient morts de mort naturelle. Certains étaient aveugles, boiteux, estropiés, tordus, affligés, atteints mentalement dans des hôpitaux, ignorant même que nous étions à l'hôpital pour prier pour eux. On les amenait, on devait les emmener. Ils se débattaient et s'automutilaient sans même savoir où ils étaient. Au bout de 5 minutes, ils étaient normaux, doux, affectueux et sains d'esprit pour le reste de leur jour. Voyez? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas Frère Branham, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui m'a envoyé prier pour les malades. Alors, voilà ce que c'est. Ça n'a pas eu beaucoup de succès à Jeffersonville, parce que, en voici la raison. Or, je veux que vous sachiez que j'ai certains de mes plus proches et meilleurs amis dans cette ville. Par contre, la ville elle-même, comme elle est, je ne l'aime pas. Je n'aime pas cet emplacement. Je ne l'ai jamais aimé. Quand j'étais petit garçon, que j'étais assis en train de lire mes livres d'histoire, je disais, un jour, je partirai d'ici. Voyez? Je n'aime pas Jeffersonville. C'est un marécage. C'est bas ici. C'est vraiment marécageux. Et c'est très malsain. Montez ici, au sommet de Speaker Knobs, ou quelque part, et regardez en bas, en direction de New Albany et de Jeffersonville. Si vous voulez voir, regardez un peu. Les médecins disent même, maintenant, que les gens de cette vallée deviennent anémiques à cause de cette situation. Une petite dame par ici, Madame Morgan, qui a été guérie du cancer, a emmené son chien ici à la clinique. Elle pensait qu'il avait la gale. Vous savez ce que c'était? Les retombées de l'usine Colgate et tout, sur l'herbe où il était passé. C'est l'endroit le plus insalubre. Un gars qui était à l'armée a attrapé là-bas. Il avait de l'asthme. Il est allé en Floride et ses yeux sont devenus très noirs. Il est allé chez le médecin et il a dit, « Docteur ?» Le médecin a dit, « Alors, vous vous êtes bagarré, hein ?» Il a dit, « Non, monsieur, si vous voulez savoir qui c'est, il s'appelle Herbie. » Maintenant, si je pouvais juste me souvenir, c'est à l'Union National Bank, à New Albany. Il est caissier là-bas. Vous n'avez qu'à aller voir celui qui s'appelle Herbie. Demandez-lui. Et il a dit, il est allé, il a dit, « Docteur, il a dit, j'ai une sinusite. » Et il l'a examiné, il a dit, « C'est vrai. » Il a dit, « Je pensais que vous vous étiez bagarré. » Il a dit, « Où habitez-vous, mon garçon ?» Il a dit, « Vous ne connaissez peut-être pas cet endroit. » Il a dit, « Je vis dans une petite ville en face de Louisville, dans le Kentucky, qui s'appelle New Albany, dans l'Indiana. » Il a dit, « Vous n'allez pas me dire que vous avez attrapé une sinusite avec cette eau salée, ici à Miami, en venant ici. » Il a dit, « Si vous avez pu vivre à Jeffersonville, dans l'Indiana, ou à New Albany, dans l'Indiana, vous pourrez vivre n'importe où dans le monde, où l'armée des États-Unis vous enverra. » C'est tout, voyez? C'est l'endroit le plus insalubre du monde, à ma connaissance, en dehors de certaines régions marécageuses infestées par la malaria. Voyez? Et j'ai des amis ici. Regardez donc, je peux bien les citer. Regardez le docteur Samader, mon copain. Très bien, il y a Mike Egan qui est assis là. Oh là là, combien je pourrais en nommer? des centaines de vrais bons copains, mes vieux potes que j'ai fréquentés. Peu importe combien de nouveaux amis je trouve, rien ne remplacera un vieux copain. Vous le savez. Il y a ma mère, âgée, assise là-bas au fond. Elle n'en a plus pour longtemps ici-bas. Elle est dans la soixantaine maintenant. Il y a la mère de ma femme, qui a 70 ans, bientôt 71, assise ici quelque part, je pense, ce soir. Et alors, devoir la quitter. Mon papa est enterré ici. Ma femme est enterrée ici, au cimetière Walnut Ridge. Mon bébé repose là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas rester ici. Et je crois que bientôt, très prochainement, je vais devoir partir. Vous voyez? Parce que cette pensée me vient constamment. Et je dis ceci à la chair, avec ma Bible devant moi. Quand je l'ai dit à ma femme, alors qu'on nous avait donné l'argent pour construire ce presbytère, que j'ai ensuite cédé à cette église est propriétaire de ce presbytère. Allez voir là-bas si ce n'est pas le cas. Vous voyez? Je ne voulais pas le prendre pour moi. Alors, quand je m'apprêtais à construire, là, Meda a dit, « J'aimerais bien rester ici, à cause de ma mère. » J'ai dit, « Chérie, alors crois-moi, nous allons le regretter. » Tu vois, ça ne va pas marcher. Dieu a dit, « C'est par toi, je dois le faire. » Et elle a dit, « Mais il y a ma mère. » J'ai dit, « Il y a ma mère aussi. Mais celui qui n'aura pas quitté les siens pour me suivre n'est pas digne d'être appelé mien. » Et c'est vrai, j'ai l'impression qu'un jour, bientôt, je vais devoir déménager. C'est-à-dire partir. La raison, c'est qu'ici, les réunions n'ont pas beaucoup de succès. Elles n'ont pas le succès qu'elles ont partout ailleurs. Et tous ceux qui ont déjà assisté aux réunions savent que c'est vrai. Parce qu'ici, on est dans ma propre ville. C'est ça. Jésus a dit la même chose quand il est venu. Ils ont dit, « Qui est donc ce gars-là? N'est-ce pas le fils du charpentier ici? Quelle école a-t-il fréquenté? D'où lui vient ce savoir? Maintenant, j'aimerais bien te voir faire. Tu as dit que tu avais fait des miracles à tel endroit. J'aimerais bien te voir faire la même chose ici. Ce que tu as fait à Capernaum, j'aimerais bien te voir le faire ici. » Jésus a dit, il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'est retourné et a dit, « en vérité, je vous le dis, un prophète, le seul endroit où il ne reçoit pas de récompense, c'est parmi les siens et dans sa région. » Pas vrai? Et nous le savons. Regardez, prenez Finney, prenez Sankey, Moody, prenez John Wesley. Il n'a jamais pu percer, vous voyez, avant d'avoir quitté son pays. Regardez, regardez Moody. Quand Moody, un cordonnier de Boston, n'arrivait pas du tout à percer, il est venu à Chicago pour devenir célèbre. Voyez, il lui a fallu être loin des siens pour y arriver. C'est ce qu'il vous faudra toujours faire. Mais maintenant, ici, Dieu exaucera la prière si vous oubliez que c'est William Branham. Vous voyez, si vous oubliez que William Branham a quoi que ce soit à voir là-dedans, il est seulement celui qui se tient là pour prier pour vous. C'est Jésus-Christ qui a déjà accompli ce que vous lui avez demandé de faire, si seulement vous le croyez. Voyez, cela n'a rien à voir. Je n'ai rien à voir là-dedans, si ce n'est d'en témoigner. Mais on dirait qu'après avoir grandi ici avec vous, vous qui connaissez toutes mes faiblesses et tous mes défauts, et vous savez ce que Dieu a fait ici même dans cette ville, au jour du jugement, aura des comptes à rendre, et le prix sera élevé, un jour, car il y a eu ici même des centaines de guérisons extraordinaires. C'est vrai, ici même. Des signes et des prodiges, et l'apparition de l'ange là-bas, et les journaux qui ont fait beaucoup de bruit à ce propos, et tout. Et quand même les gens ne... Pourquoi donc? Or, un jour, je vais partir d'ici. Je me pose la question, quelle sera ma fin? Est-ce terminé? Est-ce presque ça? J'ai 48 ans. Est-ce presque terminé? Je me pose la question, si c'est ça. Regardez, pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience? Cette photo-là, pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces autres choses? Vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains parmi vous, les jeunes, vous en prendrez conscience après mon départ, voyez? Mais Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Vous voyez ce que... Vous comprenez ce que je veux dire? Juste un bracelet de petite fille, si quelqu'un veut venir le prendre. Et je crois que frère Sussman disait qu'il a laissé une Bible ici, la dernière fois qu'il était là, je crois. Est-ce que quelqu'un aurait trouvé une Bible, une Bible qui serait restée ici, quelque part? Si vous en avez trouvé une, elle appartient à frère Fred Sussman, du Canada. Maintenant, prions. Seigneur, sois miséricordieux, car pendant que la musique jouera doucement et que Frère Neville fera l'onction d'huile, je m'avancerai pour imposer les mains aux malades au nom de Jésus. Accorde-le, Seigneur, pour leur guérison. Amen. Que tout le monde prie maintenant. Tout le monde. Bien. Seigneur, ce petit, son grand-père se tient ici pour lui. Il est allergique au lait, à toute forme de lait. Mais toi, tu possèdes toute puissance, et ce petit ne peut pas avoir lui-même la foi. Alors, Seigneur, j'utilise ma foi pour lui, avec ses parents et ses grands-parents. Et nous déclarons au nom de Jésus que ce bébé pourra boire du lait et vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Il en sera ainsi. Ô Dieu, elle prie pour son père. Je prie avec elle, afin que tu guérisses son père et que tu lui donnes ce dont il a besoin. Au nom de Christ. Amen. Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? Les gens prient, mais c'est que les gens, ils s'attendent à quelque chose de grandiose. Et ils compliquent la chose. Dieu, lui, simplifie la chose. Vous, en compliquant cela, vous ratez tout. Voyez, il suffit de... Acceptez-le dans sa simplicité, comme Dieu l'a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris, comme Dieu l'a dit. Nous imposons les mains à cette femme, Seigneur, notre sœur qui se tient ici. Qu'elle soit guérie, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, comme nous imposons les mains à notre sœur, au nom de Jésus-Christ, en commémoration de la Bible et de l'enseignement du Seigneur, qu'elle soit guérie. Père, au nom de Christ, nous demandons la guérison de notre sœur, et je te prie de la rétablir entièrement, alors que nous obéissons à ta parole. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'elle pourra... Amen. Père, nous imposons les mains à notre sœur, et nous te demandons, au nom du Seigneur Jésus, de la guérir et de la rétablir entièrement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, nous imposons les mains à notre frère et nous te demandons de le guérir pour la gloire de Dieu. Père, au nom du Seigneur Jésus, nous oignons notre sœur et nous lui imposons les mains en demandant sa guérison au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre frère, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, pendant que nous l'oignons, de le guérir. Père, voici sa chère épouse. Nous l'oignons et lui imposons les mains en présentant cette demande au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous oignons la petite Edith en lui imposant les mains et nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ de lui accorder sa demande. Père, nous oignons aussi sa mère et nous lui imposons les mains en demandant sa guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit guérie. Père, nous oignons le précieux petit trésor de cette famille, si cher à leur cœur, au nom du Seigneur Jésus, à qui un jour nous l'avons confié, et je te prie de le guérir. Ô Dieu, tu connais la requête de notre sœur et nous te remercions pour sa foi noble. Maintenant que ces choses qu'elle a demandées, cette camarade de jeu de son enfance, ô Dieu, que l'ennemi perde son emprise sur elle et qu'elle rentre chez elle guérie. Nous prions aussi pour cet homme, ce qu'elle a demandé pour lui selon ta promesse. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je te prie de lui accorder cette requête. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, le nerf frontal commence à mourir chez mon frère. Nous demandons que la vie renaisse, car nous lui imposons les mains en demandant au nom de Jésus que ce nerf soit guéri. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre sœur, après lui avoir fait l'onction d'huile, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons sa guérison. Amen. Père Céleste, comme notre sœur cette nuit-ci, pour de nombreux cas qui, grâce à toi, ont été des réussites. Elle se tient ici pour un de tes serviteurs, un prédicateur qui est très nerveux. Nous éprouvons dans notre cœur beaucoup de compassion pour lui, car nous savons ce qu'il traverse. Je te prie, ô Dieu, d'oindre notre sœur pour cette tenue-ci pour lui et de l'oindre lui pour qu'il reçoive sa guérison. Je prie au nom de Christ. Amen. Le Seigneur sait. C'est bien, j'en suis très heureux. Ça, c'est vraiment l'onction du Seigneur. Seigneur Dieu, cette femme, après avoir été délivrée d'un démon qu'elle avait combattu pendant des années, un jour où tu l'as fait venir à la maison là-bas et où l'Esprit est descendu, ainsi dit le Seigneur, après qu'elle avait crié à toi, qu'elle s'était prosternée devant l'autel, qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais il a fallu, l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, elle s'avance pour le bébé de sa sœur, qui a des vomissements. Il a plus d'un an et ne marche pas encore. Je te prie, Seigneur, de lui accorder les bénédictions de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux de cela, sœur, et même votre aspect a changé. Et vous n'êtes pas près de mourir là, n'est-ce pas? Dieu notre Père, nous te prions de bénir notre sœur, alors que nous l'oignons et que nous lui imposons les mains en demandant, selon ce que tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous confessons être des croyants, Seigneur, alors nous te prions de faire quelque chose au nom de Jésus. Dieu notre Père, connaissant le cœur de cette petite femme, puisqu'elle s'est ouverte à nous, nous te prions d'être miséricordieux envers elle et de lui accorder sa requête, ce qu'elle a demandé. Ô Dieu notre Père, pour sa famille, pour ses enfants et en particulier pour son fils, ô Dieu, je te prie maintenant d'accorder ces choses. De tout mon cœur, je le demande au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, nous oignons cette femme d'huile en priant pour elle au nom du Seigneur Jésus, afin que tu la guérisses et la rétablisses pour la gloire de Dieu. Je me demande, votre nom ne serait-il pas West? Père, nous prions pour cette jeune femme. C'est une requête pour son père. Maintenant, je te prie de la lui accorder. Parle au cœur de son père, Seigneur. Elle désire son salut. Elle, qui est son enfant, le fruit de sa chair, elle ne veut pas qu'il reste dans l'état où il est, ici dans le monde. Je te prie, Père, d'être miséricordieux envers lui, au nom de Christ. Dieu vous bénisse, ma fille. Que Dieu vous accorde ce que vous avez demandé. Dieu bien-aimé, nous implorons ta miséricorde sur elle. Nous te demandons d'être miséricordieux alors que nous l'oignons.